Vous êtes sur RTL.
Vous écoutez RTL et comme chaque matin à cette heure-ci, c'est l'heure du passage de témoins. Yves Calvi va maintenant vous accompagner jusqu'à 9h30. C'est à vous Yves, bonjour.
En tout cas, vous avez fait plaisir à l'Office du tourisme breton, n'est-ce pas tous les deux?
Mais comme toujours.
En rendant hommage à ce...
Je suis VRP.
À cette belle région et au soleil qui y règne. Merci infiniment Julien, bonne journée à toute l'équipe de nos petits matins et bonjour à tous. 18h ce soir, Jean Castex au rapport avec 6 de ses ministres. Le durcissement des mesures semble acquis et nous allons ce matin envisager toutes les hypothèses. Tout d'abord, grâce à notre brigade RTL, dès 7h15, les différents scénarii avec Sophie Orange. Nous écouterons ensuite le maire de Metz, François Grosdidier. Sa région est particulièrement touchée. Faut-il généraliser le couvre-feu à 18h? La question lui sera posée. À 7h40, invité d'Alba Ventura sur RTL, le virologue français de référence, le professeur Christian Bréchaud, depuis les États-Unis où il préside le Global Virus Network. L'homme a dirigé l'INSERM et l'Institut Pasteur, il est l'une des meilleures vigies de la pandémie. À 8h20, le couvre-feu a-t-il changé notre consommation, notre façon de vivre et finalement d'acheter? Analyse avec Michel-Édouard Leclerc. Enfin, sachez qu'aujourd'hui, nous recevons à 9h dans Laissez-vous tenter, Yasmina Reza pour son dernier roman, Serge, humour, dérision et émotion, avec l'un des rares auteurs français connus et appréciés dans le monde entier. Nous sommes le jeudi 14 janvier 2021. Très bonne journée à tous. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Alexandre Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Les journées pourraient bientôt se terminer encore plus tôt que prévu.
Pour freiner l'épidémie, le gouvernement pourrait annoncer aujourd'hui une généralisation du couvre-feu à 18h. Le groupe canadien Couche-Tard veut racheter Carrefour. Bercy est inquiet. 2 militaires français impliqués dans un vaste trafic d'armes. Ils vendaient aussi bien aux dealers qu'aux sympathisants de l'ultra-droite. Et puis un deuxième impeachment historique pour Donald Trump, une semaine avant de quitter la Maison-Blanche.
La politique, Olivier Boss.
Il n'y aura pas de fermeture des écoles, pas encore, et c'est la bonne exception française quand on regarde nos voisins.
Tout cela dès la fin du journal.
RTL Matin.
Près de 250 000 Français ont déjà reçu une première dose du vaccin. La campagne s'accélère, mais les experts appellent quand même à mettre le turbo alors que le virus pourrait être rendu plus contagieux, notamment par le variant anglais. Un conseil de défense s'est réuni hier. Des nouvelles mesures sont attendues cet après-midi. Jean Castex prendra la parole à 18h. Une conférence de presse qui se prépare depuis le début de la semaine, Vincent Derosier.
Oui, et tout commence par une réunion discrète à l'Élysée. Lundi, le bras droit d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler, est chargé de briefer les hauts gradés de la majorité. Il leur donne les deux options qui sont sur la table. La plus douce, avancer le couvre-feu dans quelques départements supplémentaires. La plus dure, boucler tout le pays dès 18h, voire reconfiner les Français une troisième fois. Mardi, l'idée de ce confinement total, jugé trop extrême, est écartée par Jean Castex. Le Premier ministre dévoile alors à certains les scénarios retenus. Couvre-feu étendu ou couvre-feu national, assorti ou pas d'un confinement le week-end. Hier matin, toutes ces options ont bien été débattues en Conseil de défense. Bercy plaide la cause des commerçants. D'autres craignent de la désobéissance en cas de mesures trop radicales. Le chef de l'État, qui a entre les mains le rapport du Conseil scientifique, écoute mais ne décide rien car le président redoute les fuites. Les échanges se sont donc poursuivis hier soir tard avec Jean Castex et Olivier Véran. Ils ne sont désormais qu'une poignée dans la confidence.
Vincent Derosier du service politique de RTL.
Et à 7h45, nous retrouvons le professeur Christian Bréchaud, virologue, président du Global Virus Network. Il sera l'invité d'Alba Ventura. RTL vous dévoile ce matin une conséquence étonnante. L'épidémie a entraîné un record de consommation de légumes surgelés et de conserves.
Oui, c'est même un record historique avec 8% de croissance sur un an. Plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. On a vu un pic pendant le premier confinement. Plus 30% et même plus 50% pendant le deuxième. Les légumes surgelés et en conserve sont plus faciles à stocker, donc à cuisiner, sans avoir à sortir de chez soi. C'est un vrai avantage. Sébastien Rouxel, vous avez mené l'enquête dans les rayons d'une grande surface en région parisienne.
Les viandes surgelées, les plats préparés, Rachid, 63 ans, passe devant ces rayons sans s'arrêter. Une main sur son caddie en tissu noir, il file directement vers les grands congélateurs qui regorgent de légumes.
Voilà, j'ai pris des haricots verts, des épinards aussi, des petits pois aussi, et des haricots blancs.
Tous ces légumes, vous les achetiez où avant ?
Dans les marchés, là où il y a des produits frais, oui. On a changé parce que pour la durée, au moins on a la garantie de le garder un peu plus longtemps que les produits frais.
Et c'est la même raison qui a poussé Lynn, 75 ans, à acheter de plus en plus de légumes en conserve. Elle fait tout pour se protéger face à l'épidémie.
Je ne veux pas acheter tous les jours des produits frais. Je ne veux pas venir avec la crise sanitaire plus souvent que je fais actuellement.
Sonia, elle, a peur des ruptures de stock.
Avant, ce n'était pas important. Je pouvais acheter au jour le jour. Il faut que j'aie des conserves aujourd'hui. Si demain, il n'y a plus rien, au moins, on a de quoi manger, quoi.
Cette crainte des ruptures de stock, elle est née avec le premier confinement. Sonia l'assure, en cas de nouvelles restrictions, elle se précipitera sur les légumes en conserve.
Le reportage de Sébastien Rouxel pour RTL.
Alors surgelés, plats préparés, à quoi ressemble aujourd'hui notre consommation en période de pandémie ? Les informations et l'analyse de Michel-Édouard Leclerc, ce sera à 8h20 sur RTL. Toujours dans la grande distribution, Bercy s'oppose contre un rapprochement entre Carrefour et Couche-Tard.
Oui, ce groupe canadien qui a connu le succès grâce à ses supermarchés adossés à des stations-service. Couche-Tard lorgne désormais sur le géant mondial des supermarchés. Les discussions sont très préliminaires, hein, selon Carrefour. La démarche serait amical, je cite, mais le gouvernement français ne voit pas ça du tout d'un bon œil, le ministre de l'économie Bruno Le Maire.
Carrefour, c'est le premier employeur privé de France. C'est un chaînon essentiel dans la sécurité alimentaire des Français, dans la souveraineté alimentaire à laquelle je suis viscéralement attaché comme ministre de l'économie et comme ancien ministre de l'agriculture. Le jour où vous allez chez Carrefour ou chez Auchan ou chez Leclerc et qu'il n'y a plus de pâtes, plus de riz, qu'il n'y a plus de biens essentiels, vous faites comment ? Donc, ce qui est en jeu, c'est la souveraineté alimentaire des Français. Donc, de ce point de vue-là, l'idée que Carrefour puisse être racheté par un concurrent étranger, a priori, je ne suis pas favorable à cette opération. Demain, quel va être l'impact sur l'emploi, premier employeur privé de France ? Est-ce que notre souveraineté alimentaire sera garantie ? Donc, je préfère dire les choses clairement. Nous ne sommes pas, a priori, favorables à cette opération.
Le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui était hier sur France 5. La France qui perd une responsable politique de grand talent. Emmanuel Macron rend hommage à Marielle de Sarnez. Une minute de silence a été respectée hier soir à l'Assemblée nationale.
Mes chers collègues, pardonnez-moi de prendre la parole avec une certaine émotion puisque nous venons d'apprendre le décès de Marielle de Sarnez. Notre collègue, notre amie pour beaucoup, on savait qu'elle était très malade. On espérait tous son retour et, si vous le voulez bien, nous allons respecter une minute de silence.
Marielle de Sarnez, députée Modem, ancienne ministre, elle était le bras droit de François Bayrou. C'est lui qui a annoncé sa mort hier soir dans un tweet. Elle était âgée de 69 ans. Marielle de Sarnez souffrait d'une leucémie.
RTL, il est 7h06. Plus de 200 armes saisies, un trafic démantelé. Il pourrait avoir été monté par des militaires et on en parle dans un tout petit instant.
RTL Matin.
Il est 7h08, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Des suspects inhabituels pour un trafic d'armes.
10 personnes ont été interpellées par la brigade de répression du banditisme. Un vaste coup de filet pour démanteler un important réseau, Guillaume Chiez.
Oui, et parmi les 10 interpellés se trouvent 2 militaires en activité, 2 hommes dont le rôle exact au sein de ce vaste réseau reste à déterminer. Après plus de 6 mois d'observation et de filature, les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme ont saisi mardi au petit matin plus de 200 armes à feu, des fusils d'assaut, des pistolets automatiques achetés à des collectionneurs privés et donc théoriquement neutralisés qui avaient été remis en service par les trafiquants. Le réseau écoulait ses armes dans toute la France avec 2 types de clientèle, le grand banditisme et notamment les réseaux de trafic de stupéfiants, mais également les passionnés d'armes proches de l'ultra-droite.
Les explications de Guillaume Chiez du service police-justice de RTL.
Aux États-Unis, le Capitole était sous très haute protection militaire hier alors que les parlementaires ont voté un deuxième impeachment.
Oui, une fin de mandat surréaliste pour Donald Trump. Le président sortant est accusé d'avoir encouragé l'assaut donné la semaine dernière par ses partisans contre le temple de la démocratie américaine. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. 2 procédures de destitution contre un président, c'est du jamais vu. La première avait échoué, mais celle-ci pourrait avoir des chances d'aboutir.
Oui, car au moment du décompte, il y a eu 10 voix républicaines, aucune lors de la première procédure, il y a donc une brèche. La mise en accusation adoptée par la Chambre des représentants, le procès aura maintenant lieu au Sénat, mais pas avant l'investiture de Joe Biden mercredi prochain. Le sort de Donald Trump sera entre les mains d'un homme, Mitch McConnell, le chef des sénateurs républicains. Il a fait savoir qu'il pourrait voter la destitution. s'il ne bluffe pas et parvient à convaincre 16 autres sénateurs, Donald Trump sera le premier président destitué, certes après son mandat, mais les sénateurs pourront ensuite l'empêcher de se présenter en 2024. La question que vont se poser les sénateurs fidèles à Donald Trump pendant 4 ans est celle-ci. Pour la survie du parti, vaut-il mieux le ménager, lui et ses électeurs, ou lui asséner le coup final afin de reconstruire sur de nouvelles bases ?
Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Et moins d'une semaine après la suspension du compte Twitter de Donald Trump, le patron du réseau social fait son mea culpa, même s'il assure que cette décision était la bonne. Jack Dorsey considère que ça crée un dangereux précédent. C'est un échec de notre part à promouvoir une conversation saine, je cite. Et puis on termine avec un mot de football. Le Paris Saint-Germain a battu Marseille hier soir 2-1 et remporte ainsi son 10e trophée des champions. Le premier titre en tant qu'entraîneur pour le nouveau coach parisien. Mauricio Pochettino.
Les courses, Alexandre, ont lieu aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer.
Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Il vous conseille de miser sur le 10, le 8, le 6, le 5, le 14, le 7, le 2. Et la dernière minute, c'est le numéro 6, Fréja Dupont.
C'était le journal d'Alexandre de Saint-Aignan. RTL, il est 7h11. La politique avec vous, Olivier Bosse, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Une seule certitude pour les jours qui viennent, Olivier, les écoles ne fermeront pas.
Oui, et c'est un choix éminemment politique, dans le bon sens du terme. Et c'est un choix presque franco-français aujourd'hui. Si nous regardons chez nos voisins, la deuxième ou troisième vague et le variant anglais ont amené beaucoup de pays à refermer ou carrément ne pas rouvrir leurs écoles au retour des vacances. C'est le cas notamment au Royaume-Uni et en Allemagne.
En France, pourquoi est-ce différent ?
Je vous le disais, c'est un choix d'abord politique. Un choix porté par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, ou défendu même. Lors du premier confinement, il s'était battu jusqu'à la dernière minute pour empêcher la fermeture des écoles. Et après, il a pesté, il n'avait pas apprécié le moment, considérant que tout le monde en avait trop fait, par une aversion au risque exagéré. Lui, par exemple, n'aurait pas fermé les petits commerces à l'automne dernier. Depuis, Jean-Michel Blanquer a accepté des mesures plus strictes dans les lycées, des demi-classes, des journées en visioconférence, mais seulement pour les garder ouverts.
Mais a-t-il raison, Jean-Michel Blanquer ?
Alors oui, tant que l'épidémie ne dérape pas de nouveau, bien sûr. La première motivation, la première raison pour maintenir les cours, c'est que les bénéfices, en fait, sont largement supérieurs encore au risque. Personne ne dit que le virus ne se propage pas dans les écoles, mais les chiffres ne sont pas affolants. La semaine dernière, un collège et un lycée seulement étaient fermés à cause de cas de Covid. Garder les écoles, les collèges, les lycées, ça évite bien sûr le décrochage scolaire, l'isolement. Rester chez soi pour un enfant, un adolescent, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences selon les situations sociales. Et pour dire les choses de manière triviale, garder les écoles ouvertes, c'est autant de difficultés, de problèmes que toute la société s'épargne pour demain.
Donc ça va très au-delà de l'éducation nationale.
Oui, c'est aussi une bonne nouvelle, disons-le, là aussi, et aussi d'une manière un peu triviale, pour les parents qui peuvent travailler et donc, par ricochet, pour l'économie. Même le professeur Delfrécy, qui n'est pas toujours le porteur de bonnes nouvelles. Même le professeur Delfrécy a estimé hier, au nom du conseil scientifique qu'il préside, qu'il n'était pas nécessaire d'envisager aujourd'hui la fermeture des écoles.
Alors pour autant, est-ce que ça veut dire que rien ne changera ce soir ? Pas de nouvelles mesures dans les écoles ?
Alors si, peut-être pour les cantines, un lieu de contamination objectivement problématique, le régime des 3e et des 4e dans les collèges pourrait aussi être revu, un peu sur le modèle de ce qui se fait dans les lycées, avec des demi-classes. Mais l'école va bel et bien rester ouverte. C'est le plus important. Il y a, depuis le début de l'épidémie, des exceptions françaises dont on se serait bien passé, les débuts poussifs de la campagne de vaccination dernièrement. Et puis, il y a une exception française, les écoles qui ne ferment pas, dont il faut encore ce matin se réjouir.
Merci beaucoup, Olivier Bosse. Je vous rappelle qu'à 7h40, Alba Ventura reçoit aujourd'hui le professeur Christian Bréchaud, ancien directeur de l'Institut Pasteur, qui préside désormais le Global Virus Network. C'est une organisation internationale réunissant les plus grands virologues mondiaux. Rendez-vous donc dans une trentaine de minutes. Et puis dans un instant, nous allons passer en revue l'efficacité des mesures, qu'il s'agisse de couvre-feu ou de confinement. Notre brigadiste en chef, Sophie Ranche, nous dira tout. Et nous passerons un coup de fil à François Grosdidier, le maire de Metz. A tout de suite, sa région est particulièrement touchée.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h16, l'heure de retrouver notre brigade de l'actualité pour faire un point sur les possibles annonces du Premier ministre ce soir lors de sa conférence de presse hebdomadaire. Un durcissement des mesures semble acquis, mais lesquelles? Pour tout le territoire, pour certains départements? On va tenter de comprendre lesquelles des mesures sont a priori les plus efficaces. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
Alors qu'est-ce qui fonctionne? On va commencer par le couvre-feu. Ça marche ou ça ne marche
pas?
Alors
Santé publique France a réalisé une étude sur les premiers couvre-feux du mois d'octobre, là où l'épidémie avait flambé, on se souvient, après la rentrée de septembre. Résultat, 7 à 10 jours après la mise en place des mesures, les chiffres se sont améliorés. Moins 23% pour le taux d'incidence, puis moins 47% la semaine suivante. Moins 7%, puis moins 25% pour les admissions à l'hôpital. C'est quand même pas rien.
Non.
Un autre chercheur à Montpellier a modélisé les effets du couvre-feu. Il permettrait de faire baisser le taux de reproduction du virus de 0,3 points. Il est en ce moment autour de 1. Là encore, ce serait un effet important.
Et donc, un avancement du couvre-feu, par exemple, de 20h à 18h, est-ce que ça sert à quelque chose?
Alors, ça permettrait toujours pour ce chercheur de faire baisser le R de 0,1 supplémentaire, donc passer en théorie de 1 à 0,6. Dans ces cas-là, les courbes changent de sens, c'est clair. Pour la théorie, c'est cela. Pour la pratique, les mesures prises depuis le 2 janvier dans plusieurs départements n'ont pas encore d'effet spectaculaire partout. Selon les premiers calculs de Covid Tracker, en moyenne, le nombre de nouveaux cas positifs monte moins vite qu'ailleurs. Dans le détail, l'incidence baisse dans 2 ou 3 départements. Dans d'autres, comme les Alpes-Maritimes, les chiffres se sont dégradés. Ailleurs, la situation s'est stabilisée. Mais question, que se serait-il passé sans cette mesure?
Oui.
Et puis il y a peut-être deux biais, le réveillon du 31 décembre, oui, et puis ce fameux variant anglais.
Voilà donc pour le couvre-feu. Oui. Quelle efficacité pour le confinement total ou partiel?
Alors le confinement total, c'est clair, hein. Évidemment, c'est la mesure la plus efficace, mais aussi la plus dure. On l'a vu en mars dernier, le R était passé de 3 à 0,7 en quelques semaines. Un confinement partiel, uniquement le week-end, a porté ses fruits en Guyane, tout en permettant donc de laisser les écoles ouvertes. Dans tous les cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est aussi et surtout à quel moment la décision est prise.
Oui.
Plus elle est tardive, plus les effets sont longs à se faire sentir, plus elle est précoce, plus elle est courte.
Les choses sont claires. Merci beaucoup Sophie Orange. Bonjour François Grosdidier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes le maire Les Républicains de Metz en Moselle. Vous aviez réclamé un avancement à 18h du couvre-feu dans votre ville.
Non, je ne l'ai pas réclamé, je l'ai contesté.
Vous l'avez contesté? Alors, quel est votre propos aujourd'hui en matière de couvre-feu et qu'attendez-vous ce soir de notre Premier ministre?
Il reste inchangé, je dirais au Premier ministre ce matin. Soit nous arrivons de la situation extrême, intolérable, de saturation des urgences, où finalement les soignants sont obligés de choisir entre ceux qu'ils sauvent et ceux qu'ils ne sauvent pas.
Oui.
C'est ce qu'il faut éviter à tout prix. À ce moment-là, la seule solution, c'est d'appuyer sur un frein brutal, un coup de frein qui peut être rapide, qui peut ne pas s'éterniser, mais là, c'est le confinement total comme en mars. Même les lycéens et les collégiens restent à la maison et tous les salariés dont la présence sur le travail n'est pas vitale. Et ça...
Alors, nous avons un problème de liaison avec François Grosdidier. Normalement, on va pouvoir le récupérer assez rapidement en essayant de le récupérer sur son téléphone. Vous êtes avec nous, Monsieur Grosdidier?
Oui, oui.
Oui, merci. Excusez-moi, on a eu un problème de liaison.
Donc, je vous disais, soit on est dans la situation extrême de saturation des urgences, où on risque de devoir choisir entre ceux qu'on sauve et qu'on ne sauve pas, ce qu'il faut éviter à tout prix. Là, la seule solution, c'est le confinement, le vrai confinement, comme mars-avril, où même les collégiens, les lycéens, les salariés dont la présence du travail n'est pas vital, reste à la maison et là ça marche. Par contre, le couvre-feu de 18h à 20h, c'est l'heure où ça sert à rien. Je l'avais demandé, le couvre-feu cet été, au-delà de 22h quand il y avait des gens sur les terrasses et une vraie propagation du virus. Mais quand les gens rentrent du travail, vont chez eux et entre-temps vont au magasin masqués, entrant dans les boutiques au compte-gouttes, le couvre-feu entre 18 et 20 heures, ça n'empêche pas davantage la propagation du virus, ça achève très certainement les commerçants et ça rend la vie impossible notamment aux salariés qui, en sortant du boulot et en rentrant chez eux, n'arrivent pas à faire les courses alimentaires, à récupérer leurs enfants. Donc il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. J'aimerais qu'on écoute les maires pour mettre en place les choses qui ne marchent pas quand c'est vraiment nécessaire. Ce qui compte maintenant, c'est la vaccination rapide.
Quelle est la situation, s'il vous plaît, dans votre ville et dans votre région au moment où nous parlons? Et quelles seraient, selon vous, les mesures les plus adaptées?
La situation est mauvaise. À ma connaissance, on n'approche pas encore de la saturation des urgences. Donc si on approche de la saturation des urgences, je demande à ce moment-là le confinement court mais brutal. Et si on n'est pas, je demande l'accélération des vaccinations. Ceci arrive trop lentement. Nous ne sommes pas encore priorisés dans les vaccinations. Il y a des lenteurs. On perd encore du temps à des discussions qu'on aurait pu avoir il y a 3 mois. Ça fait des semaines et des semaines que nous ne sommes pas montés des centres de vaccination. Bizarrement, on en autorise autorise un à 60 km de chez nous à Nancy, où on peut, où manifestement on n'applique pas les mêmes règles, on n'a pas les mêmes priorités sur les publics, ou alors on donne beaucoup plus de vaccins à un endroit qu'un autre alors que la situation sanitaire est la même. Il y a une absence de transparence, c'est une forme de désorganisation dont on aimerait sortir. On sait que l'approvisionnement en vaccins est difficile, mais il faut vraiment que la vaccination se fasse de façon carrée et suive le rythme de l'approvisionnement. On en est encore loin, on est seulement à imaginer des centres de vaccination, je dis pour la part de l'État. Les collectivités, elles, sont l'arme au pied depuis deux mois.
Vous me confirmez que vous accueillez aujourd'hui le Premier ministre et le ministre
je
de la Santé ?
Je confirme ce matin, à partir de 8h, le Premier ministre à Metz.
Pour une visite de centre de vaccination, nous sommes d'accord ?
Pour une visite de centre de vaccination, une réunion d'élus à préfecture, et je l'accueillerai en mairie de Metz pour lui présenter mon point de vue et un certain nombre de dossiers messins.
Est-ce que vous sentez une écoute aujourd'hui de l'exécutif pour nos maires ?
Non, pas réellement. Alors, de la part des préfets, ils sont à l'écoute. Et ils entendent parfois, mais ils sont d'abord obligés d'entendre leur ministre. Voilà. Donc c'est toute la difficulté d'exercice. On a de la bonne volonté des préfets. On a aussi le sentiment que l'État lui-même est très dispersé entre les préfets, le système de santé qui, comme l'éducation nationale, est autonome du préfet. Et c'est quand même une organisation extrêmement complexe. Le couple préfet-maire fonctionne dès lors qu'il peut librement agir. Il y a quand même un certain nombre d'interférences qui compliquent les choses.
En tout cas, j'ai bien compris que vous préférez stop violent et brutal mais efficace plutôt que des petites mesurettes, en plus bien entendu de la demande d'augmentation de la vaccination.
Ah mais bien sûr, et ça c'est la priorité absolue. Nos plus fragiles ne seront à l'abri du danger et nous reprendrons une activité normale que lorsque nous aurons vacciné 50 à 60% de la population. Or, au rythme où on va, on n'est pas certain que ce soit fait dans l'année et qu'on ne soit pas encore ce qu'on...
Merci beaucoup François Grosdidier, maire de Metz. Je rappelle que vous recevez le ministre de la Santé et le Premier ministre dans un de vos centres de vaccination aujourd'hui même et que vous souhaitez justement que cette vaccination accélère en plus d'un éventuel coup de frein brutal en matière de confinement. Avant 7h30, Louis Baudin va nous faire un point détaillé de notre météo. Vous le savez qu'elle est particulièrement à surveiller en ce moment avec l'arrivée de la neige dans l'est du pays. Nous retrouverons nos grosses têtes et dans un instant, la pépite musicale d'Anthony Martin. Bonjour Anthony.
Bonjour et bonjour à tous.
Et à tout de suite.
Oui, à tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est grand temps de retrouver notre pépite, Anthony.
Alors ce 14 janvier marque les 35 ans de la mort de Daniel Balavoine. Il avait 33 ans, il devenait incontournable dans la musique française. Un peu moins de 10 ans avant sa disparition, Daniel Balavoine était en studio, il terminait l'enregistrement de son troisième album et à l'écoute, son directeur artistique Léo Missire trouvait qu'il manquait une chanson forte. Balavoine avait mis de côté un instrumental et en le réécoutant, eh bien, il a pensé à plusieurs choses. À la mort de Claude François quelques jours auparavant et aux fans inconsolables, au « Je me voyais déjà » d'Aznavour. Et Balavoine a aussi pensé à sa propre situation parce qu'il fallait savoir qu'à l'époque, Eddie Barclay lui avait dit « Écoute, t'es gentil, mais là, c'est la dernière fois que je te laisse faire un album parce que t'arrives pas à faire un succès. » Balavoine s'est installé sur un coin de console et pendant la pause repas de son équipe, il a écrit les paroles sur cet instrumental qui traînait. Un texte qui dessine un portrait caricatural du chanteur de variété qui démarre par « Je me présente, je m'appelle Henri, je voudrais bien réussir ma vie et être aimé. » On est au printemps 78 et à cette époque-là, un autre artiste débutait, rêvait aussi de gloire. Il commençait à se faire remarquer avec son groupe Téléphone, c'est Jean-Louis Aubert. Voilà pourquoi, des années plus tard, il a repris ce titre de Balavoine. C'est notre pépite du jour, Jean-Louis Aubert, le chanteur de Balavoine.
Puis après, je ferai des galas. Mon public se prosternera devant moi. Des concerts de 100 000 personnes, où même le tout Paris s'étonne et se lève pour prolonger
Voilà, c'est bien normal, Jean-Louis Aubert met de la guitare, hein,
bah oui.
Le chanteur de Daniel Balavoine, et ça lui va bien, reprise enregistrée en l'an 2000 pour l'album aujourd'hui Collector Balavoine Hommage. C'est l'occasion de saluer ce matin celle qui dirigeait à l'époque la programmation musicale de RTL, Monique Lemarcy, parce que Eddie Barclay n'aimait décidément pas Balavoine, il avait mis cette chanson en face B.
Oui.
Il trouvait qu'il avait une voix trop aiguë, etc. Mais c'était sans compter sur le flair de Monique Lemarcy, elle s'est emparée du titre contre tous, elle l'a matraqué sur l'antenne d'RTL et le chanteur est ainsi devenu un tube et a lancé la carrière de Daniel Balavoine.
Eh bien justement, rendez-vous de 21h à 22h avec notre camarade Éric Jean-Jean qui reçoit Monique Lemarcy pour une émission spéciale Balavoine. On les embrasse tous les deux. Et un autre rendez-vous musical sur RTL avec Pascal Obispo qui sera l'invité de Bérénice Bourgueil et Bruno Guillon de 11h30 à 12h30. Merci Anthony, bonne journée à vous.
À demain.
Notre rendez-vous matinal avec les grosses têtes, ce matin c'est Ariel Dombal qui rend hommage à Molière.
Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit patinage,
eh ben voilà.
De vous claquemurer aux choses du ménage et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole des poux.
C'est quoi
des
les précieuses ridicules
savantes, les femmes savantes.
Voilà, les femmes savantes. Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires.
On ne regrette pas que les théâtres soient fermés.
Quel est le trouble où je vous vois paraître?
Oh non, c'est parti.
Et que me veulent dire et ces soupirs poussés et ces sombres regards que sur moi vous lancez?
C'est Célimène dans Le Misanthrope.
Oui. Non, mais écoutez, c'est pas une question.
Moi, je connais qu'une phrase de Molière. Cachez ce vaccin que je ne saurais pas.
Autour de Laurent Ruquier dans le grand studio cet après-midi, Valérie Mérès, Pablo Mira, Bernard Mavie, Jean-Jacques Perroni, Paul Elkarat et Ariel Dombal. Louis Bodin, bonjour.
Bonjour.
Notre météo perturbée du moment, expliquez-nous.
Oui, à surveiller dans le nord-est, effectivement, cet épisode de neige que l'on attend, il aurait dû déjà arriver, mais pour l'instant, il est encore côté Allemagne, si je puis dire, ou encore Luxembourg. Oui. Mais normalement, tout au long de la journée, il devrait neiger, donc près de la frontière belge, entre Lille, Charleville-Mézières, Lorraine, Alsace, avec peut-être 10-15 cm d'ici la fin de journée. Donc, situation à surveiller. Dans les autres régions, c'est simple, c'est encore beaucoup de nuages, quelques pluies, cette fois-ci en pleine, de la neige en montagne, de nouveau dans les Alpes du Nord ou encore du côté du Massif central. Et puis quand même, quelques éclaircies sur la Bretagne cet après-midi et près de la Méditerranée avec l'aide du Mistral et de la Tramontane. Les températures vont baisser dans le Nord-Est, 1 à 3 degrés seulement, mais ailleurs, on sera plutôt entre 6 et 10 degrés.
Merci Louis. RTL, il est 7h31.
RTL Matin, Yves Calvi.
C'est l'heure du Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 14 janvier. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est d'abord une voix que l'on n'avait pas entendue jusqu'à présent, celle de Camille Kouchner. C'est elle qui accuse son beau-père, Olivier Duhamel, de viol incestueux sur l'un de ses frères. Elle le dénonce dans le livre La Familia Grande, paru la semaine dernière, et elle n'entend pas lui pardonner.
Mon beau-père, je l'ai mis dans ce livre, je voudrais qu'il reste dans ce livre. Mon beau-père, c'est mon beau-père. C'est très difficile. Et c'est ça l'inceste en fait, c'est que même au bout, c'est difficile. Après il a fait un truc qui est impardonnable, donc je lui pardonne pas. Moi j'ai eu à me taire pendant des années, pendant 30 ans de silence, maintenant je trouve que le silence il est pour lui.
Camille Kouchner, invitée hier soir de la Grande Librairie sur France 5. Parmi les proches d'Olivier Duhamel, Elisabeth Guigou, qui renonce à présider la commission sur l'inceste. L'ancienne garde des Sceaux assure cependant qu'elle n'était pas au courant. On a appris hier soir la mort de Marielle de Sarnez. La députée MoDem, ancienne ministre des Affaires européennes, a succombé à une leucémie. Elle avait 69 ans. Notre chagrin est immense. C'est le message posté par François Bayrou, dont elle était le bras droit.
Pas moins de 6 ministres ce soir autour de Jean Castex pour annoncer les nouvelles restrictions face au Covid.
L'extension du couvre-feu dès 18h semble acquise. Reste à savoir si elle ne concernera que quelques départements ou toute la France. En revanche, le reconfinement général semble exclu, tout comme la fermeture des écoles. Le taux de contamination est pourtant en forte hausse chez les enfants, mais pas de quoi s'alarmer pour Fabienne Cocher, la présidente de l'Association française de pédiatrie.
Il n'y a pas de clignotant concernant la pédiatrie. Même s'il y a une augmentation de tests positifs, pour le moment, les enfants sont peu malades. Probablement qu'il y a eu une augmentation de tests pratiques chez des enfants qui ont été testés parce qu'ils étaient cas contact au sein des familles. Donc il n'y a aucune inquiétude à laisser les écoles, les collèges et les lycées ouverts.
Propos recueillis par Agathe Landé. Et parmi les mesures attendues, des contrôles plus stricts aux frontières pour empêcher la propagation des variants britanniques et sud-africains. Et puis un renforcement des aides aux entreprises via notamment le fonds de solidarité, Christophe Ponzio.
Oui, deux ajustements attendus. D'abord pour les grandes entreprises des secteurs toujours fermés, celles qui possèdent souvent plusieurs restaurants, chaînes d'hôtels ou salles de sport. L'idée serait de leur permettre désormais de couvrir leurs charges fixes comme les loyers. Et ce, jusqu'à 3 millions d'euros sur toute la période de la crise. C'est aujourd'hui 800 000 euros sur 4 mois maximum. Et puis le deuxième ajustement de ce fonds de solidarité, c'est son élargissement à d'autres professions qui ne touchaient que 10 000 euros maximum par mois, insuffisant pour tenir. Ainsi, les viticulteurs, les grossistes en boissons ou les entreprises d'événementiel devraient voir leurs aides déplafonnées. Mais Bercy prévient, cette quatrième évolution du fonds de solidarité depuis le début de la crise est source de complexité. Davantage d'entreprises vont y avoir droit. Les délais de traitement des demandes risquent donc d'être rallongés de quelques jours.
Christophe Ponzio.
L'affaire du siècle arrive aujourd'hui devant la justice.
Oui, c'est ainsi qu'on a appelé le recours déposé par 2 millions de citoyens contre l'État pour inaction climatique. Les plaignants ne réclament pas d'argent, mais une condamnation symbolique, comme l'explique Jean-François Julliard, le directeur général de Greenpeace France.
On demande au tribunal administratif de reconnaître que l'État devrait revoir sa copie dans tous les domaines qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre, comme la question du transport, de l'agriculture, du logement. On espère que le tribunal administratif va nous donner raison et va finalement contraindre l'État à faire mieux en matière de lutte contre le dérèglement climatique. La France s'est dotée d'objectifs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou pour développer les énergies renouvelables ou pour améliorer l'efficacité énergétique. Et ces objectifs-là ne sont pas atteints.
Plus de 5 ans après le drame de Puisseguin en Gironde, l'enquête est relancée. Cet accident de car avait fait 43 morts, dont de nombreux retraités. Le parquet de Libourne réclame aujourd'hui des mises en examen. Il vise notamment les sociétés qui s'occupaient de l'entretien du poids lourd impliqué. Précision de Michel Vigier, c'est le président du collectif des victimes de Puisseguin. Il a perdu sa belle-mère dans l'accident.
Il y avait une barre de fer qui n'était pas à sa place, qui a sans doute participé à crever un réservoir. Le réservoir du camion, dont l'installation aurait pu être faite par des personnes plus compétentes. On voudrait quand même que la vérité éclate, parce que vous savez, 5 ans, c'est long. Chaque commémoration est quand même un calvaire pour les gens qui y assistent, vous comprenez.
Un propos recueilli par Philippe Demaria. Aux États-Unis, Donald Trump est officiellement mis en accusation une deuxième fois par la Chambre des représentants, c'est du jamais vu. Cela dit, la destitution ne pourra pas intervenir avant son départ de la Maison-Blanche mercredi prochain. Le président sortant qui n'a pas commenté cette nouvelle procédure de destitution. Mais dans une vidéo, il est revenu sur les événements du Capitole.
I want to be very clear. I unequivocally condemn the violence.
Je condamne sans équivoque ces violences, dit Donald Trump. Aucun de mes vrais supporters ne peut assumer de tels actes.
On en vient au football à 7h36 avec un premier titre pour Pochettino.
Le PSG a remporté hier soir le trophée des champions en battant Marseille 2-1. C'est la 10e victoire des Parisiens dans cette compétition. C'est un record. La Ligue 1, elle, est plus que jamais dans la tourmente. Après le retrait de Mediapro, c'est maintenant Canal+ qui se désengage. La chaîne cryptée juge la Ligue 1 surévaluée. Elle réclame un nouvel appel d'offres global. Le risque, c'est que le championnat n'ait plus de diffuseur. Écoutez ce qu'en dit Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais.
On ne peut pas dire que le championnat français s'est dévalorisé. Peut-être il y a eu une erreur des dirigeants. Dans ce cas-là, ils seront poursuivis. Mais il faut qu'on trouve avec Canal et avec tous ceux qui aiment le football français des solutions pour que les droits télé reviennent à leur valeur intrinsèque. Donc on va trouver des bonnes solutions et merci à tous ceux qui vont nous aider, y compris Canal qui, je le répète, a joué un rôle essentiel dans le développement du foot professionnel en France.
Jean-Michel Aulas au micro RTL de Raphaël Vantard.
C'était le Tout Info avec Isabelle Choquet. Nous nous retrouvons à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Et on reviendra sur l'affaire Duhamel avec un portrait haut en couleur des sœurs Pizier, Evelyne et Marie-France.
Il est 7h37. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Bruno Le Maire n'est pas un couche-tard.
Non, ça, je peux vous le dire. En effet, Couche-Tard, c'est le nom de la société canadienne qui veut racheter Carrefour. Et Bruno Le Maire s'y est opposé de façon vigoureuse. On va tâcher de comprendre pourquoi et quels sont les dessous de cette affaire emblématique.
Vos explications dans un instant. À tout de suite, François.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h39, Langlais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Voilà qu'un groupe canadien veut racheter les hypermarchés Carrefour et que l'État français se met en travers.
Oui, un groupe canadien deux fois plus petit que le français, mais bien plus profitable. qui fait l'essentiel de ses bénéfices avec des stations-service et puis ce qu'on appelle au Québec les dépanneurs. Vous savez, ce sont les petites surfaces ouvertes jour et nuit, et 7 jours sur 7. Alors, il est affublé d'un nom curieux, Alimentation Couche-Tard.
Oui.
Et il approche en effet le groupe Carrefour de façon amicale, hein, en proposant de le racheter, donc de discuter d'abord et de le racheter éventuellement. Incroyable retournement pour le français, hein, né dans les années 60 avec le premier hypermarché à Sainte-Geneviève-des-Bois, qui n'avait cessé de grandir en rachetant bon nombre de ses concurrents français. C'était les Euromarchés, les Continents, les Champions et bien d'autres, sans compter les développements et les acquisitions hors des frontières, qui l'avaient fait approcher la place de numéro un mondial de la distribution. Bien, il était racheteur, le voici devenu rachetable.
Est-ce que ça veut dire pour autant que Carrefour va mal ?
Écoutez, le groupe est en pleine transformation. Il était centré sur les hyper, c'est un format structurellement en baisse. Il était devenu cher pour le consommateur, ce qui est un comble. Il avait négligé le digital, le drive, tous ces nouveaux canaux prisés par le consommateur. Le voilà qui tente donc de revenir dans la course sur tous ces sujets en développant en plus le bio, le local. Alors, c'est vrai que l'année 2020 était plutôt bonne pour lui, alors que son cours de bourse, c'est-à-dire sa valeur, reste médiocre. Du coup, ça en fait une cible intéressante.
Quel serait l'intérêt d'une telle opération ?
Bah pour Carrefour, c'est pas évident a priori. Dans le meilleur des cas, il aurait davantage de moyens pour se développer, étant la propriété d'un groupe prospère. Et de bonnes sources, on me dit que les Canadiens auraient l'intention d'investir 3 milliards d'euros dans l'entreprise. Mais on peut pas dire que Couche-Tard apporte dans la corbeille des atouts stratégiques importants. Mmh. Il a fait son succès brillant sur des métiers différents, principalement en Amérique du Nord, où Carrefour n'est pas présent.
Mais qui va décider d'accepter ou non le rachat finalement ?
Ah ben, en bonne logique, Yves, ce sont les propriétaires actuels de Carrefour.
D'accord.
Qui peuvent dire oui, ils peuvent dire non, ou bien ils peuvent dire oui, mais plus cher. C'est en général ce qu'ils disent. Le plus important de ces actionnaires, ben, c'est la famille propriétaire des Galeries Lafayette. À ses côtés, Groupe Arnault, c'est la société familiale de Bernard Arnault, vous savez, le fondateur de LVMH, et puis une famille brésilienne également. Pour eux, l'offre de Couche-Tard n'est pas inintéressante au plan financier, surtout si elle est améliorable. Mais l'avis de la direction de l'entreprise de Carrefour va compter aussi, sans compter quelqu'un qui s'invite toujours à la table, le gouvernement. Carrefour, c'est la France, c'est le premier employeur du pays, en dehors de l'administration, autant dire que c'est très sensible. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a évoqué hier clairement l'interdiction de l'opération au nom de la souveraineté alimentaire des Français. Nouveau concept, hein. Nouveau concept protégé par un décret quand même qui permet de bloquer un rachat étranger dans ce secteur. Bon, Bruno Le Maire a dégainé un peu tôt parce que le conseil de Carrefour n'est même pas réuni. Alors on peut imaginer qu'il attend des contreparties, justement des garanties pour l'emploi en France. Mais c'est vrai que pour un pays qui cherche à attirer les investissements étrangers, qui réunit parfois les chefs d'entreprise à Versailles pour leur faire justement comprendre la grandeur de la France, là c'est un signal un peu ambigu qui risque justement de dénaturer un petit peu l'image de la France.
Merci beaucoup François Langlais, on va suivre ce dossier bien entendu, l'info économique tous les matins sur RTL à 7h40 avec François Langlais. Il est 7h42, bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Il compile les données des virologues du monde entier. Il est l'ancien directeur de l'Institut Pasteur et de l'INSERM, à la tête aujourd'hui du Global Virus Network. Nous allons le rejoindre en Floride. Je reçois le professeur Christian Bréchaud.
A tout de suite avec Christian Bréchaud dans un instant sur RTL.
RTL Matin avec Yves Calvi.
7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le professeur Christian Bréchaud.
Bonjour professeur Christian Bréchaud.
Bonjour madame.
Et merci d'être avec nous ce matin sur RTL depuis la Floride où vous travaillez désormais et où vous enseignez également. Professeur, on a vécu pendant des mois avec le coronavirus SARS-CoV-2 et là en l'espace de quelques jours, de quelques semaines, on entend parler d'une autre histoire, on entend parler de variants anglais, de variants sud-africains et même de variants d'Amazonie brésilienne détectés au Japon. Qu'est-ce qu'il se passe ?
Ben, ce qu'il faut toujours rappeler, c'est que, entre guillemets, c'est normal pour un virus de muter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les suivre attentivement, mais ça fait partie de l'évolution normale d'un mutant. On a une première mutation en février, si vous voulez, qui a augmenté fortement la contagiosité du virus en février 2020, et c'est cette souche qui a diffusé dans le monde entier. Ensuite, au mois d'août, on a eu des mutants qui ont été détectés au Danemark et en Hollande, du fait de transmission avec le vison. Et puis est arrivé effectivement ce mutant, entre guillemets, anglais, B117, dont on va y revenir, la contagiosité est clairement très forte. Et puis enfin, ce mutant sud-africain. Et puis enfin, ce mutant effectivement qu'on a trouvé au Brésil et qui a également été transmis au Japon. On aura d'autres mutants, c'est-à-dire que le virus évolue effectivement.
Mais combien de fois il mute, professeur ? Est-ce que c'est une course sans fin ?
Alors, ça c'est vraiment un point important. Oui, oui, un virus va continuellement muter, mais beaucoup des mutations, on ne les voit pas parce que finalement, elles ne se traduisent par aucune propriété particulière du virus. Et puis, de temps en temps, certaines mutations vont donner ce qu'on appelle un avantage sélectif au virus, et ces mutations vont faire qu'une souche finalement remplace une autre parce qu'elle est plus contagieuse. Et oui, c'est une course effectivement sans fin, sauf si... Et on a cette solution, et c'est tout le sujet actuellement, sauf si vous réussissez à contenir l'infection virale grâce à la vaccination, oui, qui est le point essentiel, combiné aux autres mesures.
D'accord, on va en parler de la vaccination, mais voilà, à un moment, est-ce qu'on on essaie de se projeter, est-ce que ça s'arrête, est-ce que comme Ebola, comme le MERS, ou même la variole, ça s'éteint un virus ?
Bah, c'est une question très importante que vous posez. Là, vous avez quand on parle, il y a des cas extrêmes comme la variole où la réponse est oui. Mais pour les autres, en fait, un virus ne s'éteint pas. Par exemple, prenons Ebola, qui est un bon exemple. Vous avez eu la crise en fait de 2015, et puis on a eu et puis les choses ont été contenues. On n'a plus entendu parler du virus, et puis il est réapparu en 2019 en République démocratique du Congo. Le SARS-CoV-2, Covid-19, ne va pas disparaître. Ce qui va se passer, c'est vraiment la nouvelle quand même très positive, hein, dans un climat très difficile, c'est qu'on a des vaccins efficaces, et donc on va faire effectivement que ce virus, on va pratiquement, j'espère et je pense vraiment qu'on peut y arriver, on va pratiquement plus en entendre parler. Mais le virus sera toujours là.
D'accord.
Et il faudra, d'ailleurs, et donc il faudra en permanence faire attention. Et un virus, pour reprendre sur votre question, oui, ça évolue par mutation. Mais ces mutations sont favorisées quand le virus se répand beaucoup. Autrement dit, si vous avez un virus, si je veux parler de façon un peu imagée, qui est contenu, qui est calme, dans lequel la circulation du virus est très faible, vous aurez beaucoup moins de risques d'apparition de mutations que si vous avez au contraire un virus qui, comme malheureusement c'est le cas actuellement, se diffuse dans le cadre d'une pandémie.
Professeur Christian Bréchot, parmi ces variants anglais, sud-africains ou d'Amazonie brésilienne, il y en a qui vous inquiètent ?
Alors, il faut d'abord définir bien la notion d'inquiétude. Les trois nous inquiètent parce que, et c'est tout le sujet actuellement en France, mais aussi aux États-Unis où l'épidémie est terrible, eh bien, comme ils sont plus contagieux, ben, ils favorisent l'emballement, la prolifération et la diffusion de l'épidémie. Alors, au-delà de ça, aucun de ces trois variants, il y a vraiment aucun argument pour penser qu'ils augmentent la sévérité. Et même en fait, quand on a des évolutions de ce type avec des contagiosités augmentées, le virus n'augmente pas la sévérité de la maladie.
D'accord.
Donc ça, de ce côté-là, on n'a pas trop d'inquiétude. Alors ensuite, il y a bien sûr la réponse pour les vaccins.
Est-ce que voilà, ils sont efficaces?
Voilà, exactement. Et ça, je pense que dans le contexte de la campagne de vaccination actuelle, il faut vraiment être très clair. Il n'y a pas pour l'instant d'argument pour dire que ces différents variants vont échapper à la vaccination. Mmh. Alors, il y a une nuance sur effectivement une des mutations qui a été trouvée dans le variant dit sud-africain ainsi que celui qui a été identifié au Brésil. Il y a une mutation qui, du moins de façon théorique et dans certains types d'expériences, pourrait conduire à diminuer la sensibilité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on injecte un vaccin à quelqu'un, oui, on génère en fait des anticorps qui sont dirigés contre de très nombreuses molécules, si vous voulez, de très nombreux pics, si vous voulez, de la protéine d'enveloppe du virus, et on fait pas du tout des anticorps contre une seule molécule. Donc, même si vous avez des mutations de ce type, l'efficacité du vaccin reste vraie. Mais juste pour terminer ma réponse, par contre, compte, c'est un sujet qui est important, qui est moins important que celui du vaccin, c'est que vous avez des traitements comme des anticorps monoclonaux contre le virus, par exemple celui qui a été utilisé quand on a traité Trump. Alors ceux-là peuvent éventuellement être modifiés par ce type de mutation. Donc la conclusion, c'est, on va y venir, c'est vacciner et surveiller. Et ça, c'est clair qu'on doit avoir une surveillance moléculaire très très attentive.
Est-ce que la nouvelle technologie des vaccins, ce qu'on appelle l'ARN, hein, tout le monde maintenant en entend parler, nous offre de nouvelles parades ?
Alors oui, parce que si on se trouvait, alors je dis bien si, et j'insiste sur le fait que ça n'est pas le cas actuellement, mais si on se trouvait, je sais pas moi, dans un an devant une souche qui elle réellement résistait partiellement ou totalement au vaccin, il est beaucoup plus facile avec cette technologie de s'adapter et d'une certaine manière de refaire un vaccin, je dirais adapté, si vous voulez, aux nouveaux variants. Mmh. Alors c'est vrai aussi d'ailleurs avec d'autres techniques de vaccination. Et par rapport à cette question sur les variants, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a les vaccins ARN, et on les a, ils sont efficaces, il faut les utiliser massivement, parce que c'est la réponse aux variants. Mais
justement, professeur, est-ce qu'il faut accélérer la vaccination ? On parle en ce moment, ici en France, de faire vacciner les personnes qui ont des maladies chroniques, des cancers en chimio, des transplantations, des insuffisances rénales. C'est absolument essentiel ?
Oui, absolument. Et ça, je crois que c'est vraiment le point. La réponse à la diffusion de ces variants, c'est une vaccination rapide et massive qui met, si je peux me permettre de parler comme ça, l'étouffoir, si vous voulez, sur le virus, qui l'empêche réellement de continuer d'ailleurs à muter. C'était le début de notre conversation. Et donc, c'est essentiel. D'accord. Et d'ailleurs, on voit ici aux États-Unis, l'administration Biden a réagi hier à justement l'existence de ces variants en ayant comme mesure principale ce renforcement, cette accélération de la vaccination.
Ça vous paraît important de reconfiner, ou bien ici en France, on dit plutôt couvre-feu généralisé, enfin on attend les annonces du gouvernement, couvre-feu à 18h, à votre avis ?
Alors, ce sont des décisions extraordinairement difficiles à prendre. Moi, je pense personnellement, mais c'est vraiment très difficile, mais je pense que c'est logique, effectivement, de prendre des mesures de renforcement des précautions, mais pas de confinement complet. Et par contre, je suis désolé de répéter, ça ne marche que si c'est associé à une vaccination massive. Et je prends vraiment l'exemple israélien. Alors bien sûr, Israël, c'est un pays particulier pour des tas de raisons et qui a une capacité de réactivité très forte. Mais néanmoins, moi, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas faire une vaccination, mais vraiment absolument massive. C'est une cause nationale. Oui. Et je me permets de profiter, en fait, de ce que vous dites pour dire aux personnes qui quelquefois sous-estiment l'effet de la maladie et donc qui comprennent moins bien l'importance du vaccin, c'est que outre bien sûr ce qu'on vient de dire sur ces variants, je trouve qu'il y a des personnes qui ne parlent pas assez des séquelles, si vous voulez. On comptabilise pas dans les décès les gens qui vont avoir pendant des mois en fait des suites extrêmement difficiles
de
l'infection. Ben, vous avez des gens qui sont épuisés, des gens qui ont des troubles respiratoires. Ce virus, si vous voulez, donne majoritairement et heureusement des infections bénignes et heureusement. Mais quand ça touche des gens, et y compris des gens jeunes, c'est un virus qui touche le cerveau, c'est un virus qui touche les vaisseaux, qui touche la coagulation. Je vais me permettre de parler de façon un peu imagée. C'est une saleté, en fait. Je pense que ces variants montrent, si vous voulez, que c'est un virus qui continue à évoluer. C'est un virus qu'on doit contenir. Oui. On a une première génération de vaccins.
Et il faut
vacciner.
Merci beaucoup, professeur Christian Bré. Merci d'avoir été avec nous depuis la Floride.
Au revoir.
C'est normal pour un virus de muter, on aura d'autres mutants, mais on a une solution, c'est la vaccination, en plus des gestes barrières, vient de nous dire Christian Bréchaud. Dans tous les cas, on doit maintenir une surveillance, nous dit le président du Global Virus Network. Merci à tous les deux, l'entretien est à retrouver comme chaque jour sur le site rtl.fr. Dans un instant, nous allons retrouver Cyprien Sini qui surfe avec la Ligue 1, le football paupérisé.
Grand spectacle.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini. 7h57, Cyprien Sini, vous surfez avec les tourments du football et de la Ligue 1.
Ah bah là, les amis, là. Ah oui. Formidable, la Ligue 1 de football. D'ailleurs, comme l'expliquait l'ancienne présidente Nathalie Bois de la Tour, quand elle cherchait à caractériser la Ligue 1 en un mot, elle disait:
on a besoin de trouver un mot authentique, un mot qui est crédible, qui ne soit pas fake. Donc ce mot, c'est le talent.
Excellent, ça, très bon le talent. Faut dire qu'il en faut, hein, puisqu'après le fiasco Mediapro qui ne voulait plus payer les droits, on s'est dit qu'on allait toucher le fond. Mais en fait non, puisqu'avec la Ligue des talents...
Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il n'y en a plus,
eh ben il y en a encore.
Eh oui, il y en a encore, puisque le seul espoir du foot français, Canal+, a réagi hier.
Canal+, qui était pressenti pour récupérer les droits depuis le retrait de Mediapro, vient de jeter un froid.
Oui, Canal+, qui s'est fait jeter la dernière fois, bizarrement, bah, ils veulent un nouvel appel d'offres histoire de payer moins. Résultat ?
Conséquence possible, écran noir jusqu'à la fin de la saison.
Et voilà le travail, plus de diffuseurs du tout. Alors on a déjà plus de public dans les stades, hein. Plus de journal avec la grève de nos amis de l'équipe qui nous manque depuis plusieurs jours, et donc bientôt plus d'images non plus.
C'est bon d'aimer le foot.
Ah bah oui, c'est super, dites donc, on se régale. Et c'est là qu'on se dit que vraiment on est très très fort avec la Ligue des Talents, hein, puisqu'il y a 2 ans quand il y avait eu ça,
la Ligue de football professionnel comptait faire monter les prix. C'est réussi.
Les sommes déboursées atteignent des records,
plus d'1,150 milliard d'euros.
C'est le groupe espagnol Mediapro qui rafle la mise.
Olé, olé, qu'on a survendu à des inconnus sans demander de garantie. Bah les présidents, ils étaient comme ça.
Le milliard.
Alors, même Jacques-Henri Hérault, le président de l'OM, et Jean-Michel Aulas, celui de Lyon, pour une fois, bah, ils étaient d'accord.
On peut vraiment se féliciter.
C'est une très bonne nouvelle. On est dans une spirale vertueuse.
Ah oui, on la sent bien, là, la spirale vertueuse. Oui. Hein. 2 ans plus tard, bien vu, les gars. Et maintenant, on retrouve les mêmes à gratter à la porte d'un éventuel diffuseur en train de faire... Les mendiants de l'amour à essayer de vendre un spectacle bien comme on les aime.
Il y a un faux rythme. Beaucoup de lenteur dans les transmissions, des joueurs un peu empruntés, 0-0, petit rythme, peu d'occasion.
Oui, la Ligue des Talents, quoi. Après, la Ligue 1, le spectacle, en fait, bah, il est plus en coulisses que sur le terrain. On va peut-être pouvoir se passer d'image, finalement. Puis il y a la radio qui fait travailler l'imaginaire.
Mais évidemment, hein, c'est merveilleux, la radio, le football, et en particulier sur RTL. Merci Cyprien Sini. On veut bien quelques mots de notre météo.
Oui, avec cette neige qu'on surveille dans le nord-est, qui a du mal à arriver quand même, mais petit à petit, ça devrait se refroidir. Donc sur les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace, avec de la neige jusqu'en plein tout au long de la journée, donc peut-être 10-15 cm d'ici la fin de journée. Dans les autres régions, là, beaucoup de nuages et beaucoup de pluie également, mais ce sera bien de la pluie en pleine, de la neige en montagne dans les Alpes du Nord et sur le Massif central. Attention au risque d'avalanche très marqué sur les Savoies. Et puis quand même, quelques éclaircies attendues sur la Bretagne cet après-midi, près de la Méditerranée, là aussi, avec l'aide du Mistral et de la Tramontane. Les températures vont donc baisser dans le Nord-Est. On sera entre 1 et 3 degrés des Ardennes jusqu'à l'Alsace. Ailleurs, bah, ça sera plutôt un peu plus doux que ces derniers jours, avec 6 à 10 degrés en général.
RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, la France qui s'apprête à renforcer ses contrôles aux frontières.
Objectif, tenter de freiner l'arrivée des variants anglais et sud-africains. La mort de Marielle de Sarnez, l'ancienne ministre et députée européenne, avait 69 ans. Et puis, Renault fait sa Renaultution. Quelle stratégie pour la marque qui a perdu l'an dernier 7 milliards d'euros.
Et ce matin, nous tenons à vous remercier, chers auditeurs, pour votre confiance. Vous étiez à la fin de l'année dernière plus de 6 100 000 à écouter RTL tous les jours. C'est le résultat du sondage Médiamétrie pour la vague novembre-décembre qui paraît ce matin. Votre matinale d'information sur l'année réalise même son record historique en part d'audience sur les auditeurs de 13 ans et plus, et ce malgré le coronavirus qui bouleverse nos habitudes de vie. Merci à tous infiniment de votre fidélité.
RTL Matin.
C'est l'heure d'un nouveau tour de vis. Nous sommes jeudi, on commence à avoir l'habitude. Nouvelle conférence de presse de Jean Castex ce soir. Oui. Le couvre-feu à 18h, en vigueur pour l'instant dans 25 départements, pourrait être généralisé. C'est l'hypothèse qui tient la corde. Mais on attend aussi des annonces sur les contrôles aux frontières, Thomas Proutot, puisque ce sont désormais les variants plus agressifs du virus qui inquiètent.
Eh bien, pour ce qui est d'abord du variant sud-africain, de nouvelles restrictions pourraient concerner les Français qui arrivent de La Réunion, territoire français le plus proche de l'Afrique du du Sud avec Mayotte. Ils pourraient désormais être soumis à un test PCR obligatoire avant leur départ, comme c'est déjà le cas pour Mayotte. Les vols en provenance d'Afrique du Sud, un seul par semaine actuellement, sont déjà soumis à cette exigence. Pas de changement donc, et il n'est pas prévu à ce stade de mesures plus contraignantes du type deuxième test à l'arrivée ou septaine obligatoire. Côté variant britannique, une des inquiétudes, c'est l'Irlande confrontée à une flambée de cas, mais il s'agit d'un État européen. D'éventuelles restrictions de voyage pourraient donc passer d'abord par la case Bruxelles. Dernière mesure envisagée et qui pourrait être annoncée ce soir, une généralisation des tests PCR obligatoires pour tout voyageur arrivant d'un pays hors Europe, n'importe lequel. Plus de pays écarlate, rouge ou vert. L'heure n'est plus aux sur-mesures.
Thomas Proutot, et après l'Angleterre, l'Allemagne et les Pays-Bas, notamment le Portugal, s'apprête à reconfiner à son tour. Dès demain, les écoles, les églises et les tribunaux resteront, eux, ouverts. Si vous avez plus de 15 ans, de 75 ans, oui, vous devriez pouvoir prendre rendez-vous dès aujourd'hui pour vous faire vacciner à partir de lundi. Mais la plateforme santé.fr, sur laquelle vous pouvez trouver le centre le plus proche de chez vous, est visiblement pris d'assaut, puisque ça rame, on l'a vérifié il y a encore quelques instants. Et le numéro national qui avait été promis pour aujourd'hui également pour prendre rendez-vous n'est toujours pas activé. Il n'existe pas encore. On suivra ça évidemment dans la journée. Le gouvernement vise les 400 000 vaccinés en fin de semaine, 1 million fin janvier. Et la campagne se fera, vous le savez, sous le regard de 35 citoyens tirés au sort. Parmi eux, une femme de 38 ans, Jessica Lancelot, qui ne cache pas sa surprise d'avoir été choisie. Dans la vie, elle est gérante de camping à Saumur.
Je ne savais pas trop si c'était vrai ou pas vrai, parce que la personne que j'ai au téléphone, je lui ai dit « mais c'est un canular ». Donc je lui ai demandé de me confirmer par mail, ce qu'ils m'ont fait l'après-midi, donc je me suis dit « là, c'est vraiment vrai ». Alors il y a une question très importante pendant ce premier appel, c'est qu'on nous demande en fait de 1 à 5, est-ce qu'on est prêt à se faire vacciner ou non. Samedi, c'est notre premier rendez-vous, on est obligé d'attendre notre première visio pour pouvoir se prononcer. Mais c'est vrai qu'on nous a demandé vraiment de venir avec toutes nos craintes, nos inquiétudes, qu'on parle sans tabou en fait. Si mon numéro était tiré au sort, il faut en profiter pour être porte-parole du coup du secteur touristique. Il faut vraiment qu'on puisse avancer.
Propos recueillis par Patrice Gabart, ces citoyens tirés au sort devront se rendre disponibles pour aller à Paris 3 jours par mois jusqu'en mars. La mission de l'OMS après une première tentative avortée est arrivée en Chine, à Wuhan, le berceau de l'épidémie. Les experts qui doivent enquêter sur l'origine du coronavirus devront passer d'abord 2 semaines en quarantaine. La Chine qui annonce officiellement ce matin son premier mort du virus depuis 8 mois.
RTL 8h04, on l'appelle désormais la génération distancielle. Les étudiants n'en peuvent plus des cours à distance.
L'écran comme seul horizon et un moral en berne. 2 tentatives de suicide ces derniers jours, on en a parlé sur cette antenne. Mais depuis la rentrée, un retour à minima est autorisé dans certaines universités, des groupes de 10, pas plus. Comme ici à Reims, pour les élèves en première année de STAPS, que vous êtes allé voir pour RTL, Vincent Serrano.
Oui, un campus noyé dans la brume, animé seulement par les rondes du gardien. Mais au fond d'un couloir, pour la première fois depuis des mois, Anouchka et Quentin s'installent fièrement dans la salle 207.
Se redéplacer, se repréparer le matin, avoir un peu un but dans la journée, quoi.
Le fait de retourner dans un bus, de remettre les pieds ici, ça fait plaisir.
On retrouve la vraie vie.
À commencer par le bruit des chaises métalliques qu'ils tirent avec le sourire, c'est avant tout du lien social qu'ils viennent retrouver ici.
Le fait d'être chez soi tout le temps, oui, on se sent un peu moins humain. Et le fait d'avoir ce dispositif, ça peut nous permettre justement de retrouver ces petites étincelles.
C'est vital pour nous, pouvoir s'aider, se soutenir.
Et le groupe de 10 élèves ne perd pas de temps. Réorganisation des emplois du temps, fiches de révision, méthodologie, tout ça à l'aide de ce que l'on appelle des étudiants tuteurs bénévoles formés spécialement pour animer ces séances de présentiel.
C'est un peu les seuls qui s'occupent de nous en ce moment, donc merci à eux.
Grâce à eux, on retrouve un peu la lumière au bout du tunnel pour s'en sortir et réussir nos études.
Et c'est pourquoi à la fin de ces 2 heures passées ensemble, pour la première fois depuis des mois, les étudiants ont un réflexe immédiat, prendre leur numéro de téléphone respectif au cas où un nouveau confinement les obligerait à repasser en distanciel.
Reportage signé Vincent Serrano. On a appris hier soir le décès à 69 ans d'une figure de la vie politique. Marielle de Sarnez, fidèle bras droit de François Bayrou, a succombé à une leucémie. Elle avait été longtemps députée européenne, éphémère ministre au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Elle présidait la commission des affaires étrangères à l'Assemblée et les réactions sont nombreuses, y compris dans l'opposition. Une adversaire exemplaire de loyauté, dit Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen, elle, salue une femme respectueuse et attentive. 2 militaires en activité sont soupçonnés d'appartenir à un vaste réseau de trafic d'armes. 10 personnes au total ont été interpellées. Les armes étaient écoulées auprès notamment du grand banditisme.
Dans un instant, sur RTL, le plan de Renault pour redémarrer. Restez avec nous.
RTL Matin. RTL Matin.
RTL 8h08, la suite du journal de Jérôme Florin. C'est un moment crucial pour nous.
Alors que le groupe traverse un moment difficile ce matin, le nouveau directeur général Luca De Meo doit dévoiler sa feuille de route, un plan stratégique qui doit décider de l'avenir. Bonjour Christophe Bourou.
Bonjour.
Alors ce plan, il a un nom, la Renaultution, car il y a urgence, hein, le constructeur français est en grande difficulté.
Oui, avec plus de 7 milliards d'euros de pertes en quelques mois, Renault patine. Il y a 4 ans, c'était 5 milliards de bénéfices. Le constructeur est clairement dans le rouge avec des ventes en chute de 20% l'an dernier. La crise a frappé en fait un groupe déjà en difficulté avec un plan d'économie de plus de 2 milliards d'euros, 15 000 suppressions de postes, dont 4 600 en France. Ajoutez à cela le mariage raté avec Fiat Chrysler et l'affaire Carlos Ghosn encore pas cicatrisée. Autant dire que le moral est bien bas. Et
quelle va être la stratégie du nouveau patron de Renault pour justement sortir le groupe du rouge ?
Eh bien rompre avec l'ère Ghosn et sa course effrénée au volume. Objectif, produire moins mais vendre plus cher, car actuellement, les voitures les plus populaires rapportent peu. C'est le cas de son modèle star, hein, la Clio. Ainsi, Luca De Meo va faire le ménage dans la gamme actuelle en la réduisant d'un bon tiers.
Et quel véhicule pourrait faire les frais de ce nouveau plan ?
Exit les Scénic et Espace, condamnés par la chute des ventes de monospace au profit des SUV. Luca De Meo devrait aussi acter l'arrêt de la Talisman, dont les ventes sont au plus bas. Les berlines généralistes n'ont plus la cote en Europe.
Renault devrait donc donner un coup d'accélérateur sur de nouveaux modèles avec davantage d'électriques.
Avec notamment en projet une Mégane électrique, une Mégane sportive également, hein, sous la marque Alpine, et un petit SUV chic dans les cartons. Mais en termes d'image, Renault pourrait surtout frapper un très grand coup. On en a parlé avec le retour de la R5 et de la 4L en version branchée. Et puis à l'automne, avec l'arrivée de la Dacia Spring électrique qui va créer l'événement puisqu'elle s'annonce comme la moins chère du marché. On parle de 12 000 euros et elle sera fabriquée en Chine.
Et quid des autres sites de production ?
Alors, si le site de Choisy, là on parle de la France, le site de Choisy-le-Roi est d'ores et déjà condamné, c'est incertain pour celui de Dieppe où est fabriquée l'Alpine. En revanche, celui de Douai qui produit l'Espace et le Scénic va prendre le virage de l'électrique. Le site historique de Flins, lui, arrêtera bien la Zoé en 2024 pour se consacrer au reconditionnement de voitures. Luca De Meo souhaite un ancrage plus fort dans l'Hexagone, alors que le Made in France ne génère plus que 18% de la production mondiale du constructeur.
Brigade RTL Sidier, Christophe Bourou, merci beaucoup Christophe. Et aux États-Unis, Tesla doit rappeler 158 000 voitures, des berlines et des 4x4 fabriquées entre 2012 et 2018. Elles présentent un problème de sécurité lié à l'ordinateur de bord.
Vous avez le sentiment que la vie a tourné au ralenti en 2020 ? Eh bien, détrompez-vous.
Oui, car la Terre, notre belle planète bleue, a tourné plus vite l'an dernier, Sophie Jousselin.
Oui, la Terre aussi a voulu que 2020 se termine plus vite. 28 fois, elle a battu son record du jour le plus court. Le 19 juillet, elle n'a pas tourné sur elle-même en 86 400 secondes. Il lui a fallu une milliseconde et demie de moins. La vitesse de rotation de la Terre varie en fonction des vents, des marées. Mais depuis les années 70, il y a une tendance de fond. Elle tourne plus vite, sans explication. Christian Bizoire est astronome à l'Observatoire de Paris.
On observe ce qu'on appelle des variations décennales, dont la cause nous échappe. On dit que ça résulte de processus à l'intérieur de la Terre.
La durée de rotation de la Terre sert à fixer le temps universel, les horloges atomiques qu'on utilisait pour calculer le positionnement, notamment en mer. Mais aujourd'hui, les systèmes GPS n'en ont plus besoin.
Ça sert à rien. Alors, peut-être quelques amateurs qui utilisent encore le temps universel pour faire du positionnement en mer, mais avec une précision qui est obsolète, de l'ordre de 1 km. Aujourd'hui, on a besoin d'une précision bien supérieure, de l'ordre de 10 microsecondes. Donc on utilise directement le temps de la rotation de la Terre, déterminé par satellite.
Et si la Terre continue d'accélérer, il faudra peut-être remettre bientôt les pendules atomiques à l'heure en les avançant d'une seconde.
Sophie Jousselin, en football, le PSG s'est imposé face à l'OM dans le trophée des champions. Victoire 2-1, la première, hein, première victoire pour le nouvel entraîneur parisien Mauricio Pochettino. C'est la 10e en revanche pour Paris dans ce trophée des champions et c'est un record.
L'histoire du jour.
Cet informaticien allemand installé à San Francisco a beaucoup de chance. Il est à la tête d'une fortune de 220 millions de dollars grâce au Bitcoin. La monnaie virtuelle a pris beaucoup de valeur. Seul problème, il a perdu son code pour ouvrir son portefeuille numérique et toucher les espèces sonnantes et trébuchantes. Il en est déjà à 8 essais. Il lui en reste 2. Sa fortune risque de rester à tout jamais virtuelle.
Vous n'avez pas dit le mot magique.
Je ne supporte pas ces conneries d'informaticien.
Vous n'avez pas dit le mot magique. Vous n'avez pas dit le mot magique.
Ben voilà, bien sûr. Oui, c'est un des très bons moments dans Jurassic Park. C'était le journal de Jérôme Florin.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
Les Infox, avec vous, Jean-Mathieu Pernin, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, le 3919, numéro d'alerte de la violence faite aux femmes, va-t-il disparaître, comme le craignent apparemment certaines militantes féministes?
Oui, alors c'est une information assez étrange vu le contexte, hein, oui. Puisque le 5 janvier dernier, au journal Le Parisien, aujourd'hui en France, Marlène Schiappa confirmait une hausse de 60% des violences conjugales pendant le deuxième confinement. Pourtant, depuis quelques jours, c'est un autre moyen de communication qui inquiète, le 3919. Le 11 janvier, sur les réseaux sociaux, la militante féministe Caroline Dehas, membre du collectif Nous Toutes, affirme et explique dans une vidéo que le 3919, numéro d'aide aux femmes victimes de violences, va disparaître par une décision du gouvernement. C'est étonnant, hein, alors que ce numéro est imprimé sur de nombreuses affiches, des flyers, est devenu une référence dans la lutte contre la peur et la brutalité domestique, est connu, selon Harris Interactive, par 30% des Français. Étrange de ne plus en entendre parler prochainement. Alors, sollicité par le journal en ligne Le HuffPost, l'entourage d'Elisabeth Moreno, qui est la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, dément, hein, cette affirmation. Il n'est, explique-t-elle, aucunement question de supprimer le 3919 ou de changer le numéro. Alors, fin de l'histoire, polémique montée en épingle, eh bien, pas vraiment.
Bon alors, qui dit vrai dans cette histoire, le gouvernement ou Caroline Dehas?
Eh bien, c'est un peu des deux. Voilà, c'est rare d'avoir cette position dans cette chronique, mais les faits nous entraînent vers ce 50-50. Alors, remontons dans le temps et allons voir ce qu'il se passe entre le 3 septembre et le 25 novembre 2019. Ça nous paraît loin. Hein. Oui. Une longue période durant laquelle le gouvernement va organiser une série de tables rondes autour de la problématique des violences conjugales, plus connue sous le nom de Grenelle des violences conjugales. Parmi les décisions annoncées, un élargissement des horaires d'écoute du 3919. Oui. Il s'agit en fait de tenir compte du décalage horaire avec les départements et territoires d'outre-mer. Oui. Le service doit fonctionner 24-24 alors qu'il ferme actuellement à 22h en semaine, 18h le week-end. La ligne doit également devenir accessible aux personnes malentendantes ou ayant des troubles du langage. Pour changer de cadre juridique, le gouvernement a lancé une procédure de marché public inévitable selon l'entourage d'Elisabeth Moreno à l'AFP. Or, le collectif nous a repéré que le cahier des clauses techniques particulières du marché public évoque, je cite, un numéro d'accès fourni par l'État. Or, le gouvernement n'est pas propriétaire de l'actuelle ligne, le 3919, détenue par la Fédération Nationale Solidarité Femmes depuis 1992. Si on change de numéro, eh bien, tout le travail s'écroule, expliquent les associations féministes ainsi que la Ligue des droits de l'homme.
Bah alors, le gouvernement était-il obligé de passer par un marché public?
Eh bien, en novembre, le cabinet d'Elisabeth Moreno expliquait qu'il s'agissait de faire de cette ligne un véritable service public. Et donc, je cite, le recours à la commande publique s'impose. Sans une telle procédure, le risque de contestation juridique serait avéré, ce qui pourrait retarder la mise en service de la plateforme remaniée, voire la mettre en danger. Le gouvernement a expliqué que le 3919 n'allait pas disparaître, mais si un autre numéro est créé par l'appel d'offres, comment faire perdurer le 3919? Voilà une vraie interrogation nimbée d'un épais mystère.
Eh bien, on va continuer de suivre ce dossier. Merci beaucoup Jean-Mathieu Pernin. Dans un instant, Michel Simès, ne faites pas votre sport à jeun ou si vous le faites, eh bien, il faut savoir comment vous vous organisez. Allez, dans un instant.
RTL Matin.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Ce matin, vous vous adressez à celles et à ceux qui font du sport à jeun.
Oui, et vous êtes de plus en plus nombreux à vous élancer pour un footing le ventre vide, souvent parce que vous avez entendu dire que c'était le meilleur moyen de vous débarrasser du surplus de graisse que vous traînez. Le raisonnement est le suivant. À partir du moment où vous n'avez pas mangé, votre taux de sucre dans le sang n'est pas élevé, ce qui conduit votre organisme à puiser son énergie non plus dans les réserves de sucre, mais dans les réserves de graisse de lipides.
Bah, donc le raisonnement tient la route, mais ça ne veut pas dire qu'il soit adapté à tout le monde et surtout pour tous les sports.
Voilà, absolument. Alors si vous sentez que vous avez besoin de manger avant de bouger, ne vous privez pas de le faire. Moi, c'est mon cas. Je sais que vous, vous aimez faire le sport à jeun.
Oui.
Il ne faut pas que vous vous forciez à vous entraîner à jeun si vous n'aimez pas ça, au prétexte que c'est à la mode en ce moment. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, allez-y progressivement. Un quart d'heure le premier jour, une demi-heure le deuxième, trois quarts d'heure le troisième, et vous allez vite savoir si vous êtes fait pour ça, où se situent vos limites. Enfin, je pense que cette pratique, bien sûr, n'est pas adaptée à certains sports. Si vous faites du squat, du fractionné, des squats, c'est pas pareil que si vous faites du vélo ou que vous enchaînez les longueurs de piscine. Dans le premier cas de figure, vous faites des efforts courts et violents. Et ça, il vaut mieux de pas y aller le ventre vide parce que vous exposez davantage aux crampes et un petit coup d'hypoglycémie. C'est d'ailleurs pour ça que je vous conseillerais toujours d'avoir à portée de main une barre de céréales à avaler en cas de besoin.
Bon alors, quand vous parlez de faire du sport à jeun, ça fait référence à ce qu'on mange ou en l'occurrence ce qu'on ne mange pas, mais pas à ce qu'on boit.
Oui, alors côté hydratation, faut rien changer. Il faut toujours boire de l'eau avant, pendant et après l'effort. Ce qui est sûr, c'est que si vous sacrifiez à cette mode du sport à jeun, vous devez y penser avant, parce que vous vous sentirez d'autant mieux pendant l'effort que vous aurez dîné de manière adaptée.
La veille.
Un repas adapté, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire le plein de sucre lent, privilégier les légumes cuits plutôt que crus pour faciliter la digestion et éviter les produits laitiers et les protéines animales. Si en plus de tout ça, vous bénéficiez d'un bon sommeil réparateur, vous êtes dans les meilleures dispositions pour que votre entraînement se passe bien.
Bon, si j'ai bien compris, une bonne soupe. Hein. Le sport à jeun, c'est uniquement le matin?
Non, ça peut être vers 17 ou 18 heures hein, si vous n'avez rien avalé depuis votre déjeuner. Mais c'est vrai que c'est plus indiqué le matin où l'on est a priori plus en forme qu'après une journée de travail.
Après avoir fait du sport à jeun, qu'est-ce qu'on mange?
Déjà, vous avez raison de le souligner, on mange. On ne sort pas d'une séance à jeun pour rester à jeun. Ensuite, on mise sur les protéines et les fibres et on peut se mettre à table une demi-heure ou trois quarts d'heure après la fin de la séance. Alors, ça tombe bien parce que c'est à peu près le temps qu'il faut pour prendre sa douche et s'habiller.
Vous êtes logique, je vous remercie et je vous dis à demain.
Mais je vous en prie.
Le Premier ministre va donc prendre la parole à 18h pour évoquer les restrictions à venir pour contenir l'épidémie. Allons-nous vers une extension du couvre-feu à 18h? Réponse ce soir. En revanche, dans un instant, avec Michel-Édouard Leclerc, nous allons tenter de mesurer l'impact de ces contraintes sur notre façon de consommer et finalement de vivre. Restez avec nous.
Yves Calvi, RTL Matin.
Il est 8h23. Bonjour Michel-Édouard Leclerc.
Bonjour.
Vous présidez le groupe d'hypermarché Leclerc et nous avions la curiosité de discuter avec vous ce matin de l'impact des restrictions sur nos vies et nos façons de consommer. Vous qui connaissez et qui voyez consommer depuis des années des millions et des millions de Français, une partie de vos hypermarchés se trouve dans des régions où le couvre-feu a déjà été avancé à 18h ces derniers jours. Quelles sont les premières remontées de terrain que vous disent vos collaborateurs?
Alors écoutez, cette fois-ci, tout le monde est un peu... plus personne n'est dans la critique de l'efficacité ou pas de la mesure. On s'adapte. On n'écoute pas trop les statistiques pour savoir si le confinement doit être à 18h, à 19h, à 20h. On applique, on est légaliste.
Okay.
Ça pose des problèmes plus à nos clients qu'à nos
qu'aux
magasins.
Équipes.
Parce que les équipes, aujourd'hui, elles sont complètement organisées. Donc les salariés, les magasins ferment une heure plus tôt. Les salariés partent aussi une heure plus tôt.
Donc vous avez aménagé les horaires.
On a aménagé les horaires. On a organisé du covoiturage. Ou ils ont organisé quelquefois avec des start-up du covoiturage.
S'ils partent plus tôt, pardonnez-moi, est-ce que ça veut dire qu'ils viennent plus tôt et que vous ouvrez plus tôt?
Dans certains cas, oui, parce que c'est... En fait, nous ne sommes pas autonomes. C'est une chaîne. Le magasin est une vitrine.
Oui.
Et donc, ce qui compte, c'est ce qui arrive en magasin pour qu'il n'y ait pas de rupture. Pour que les gens ne viennent pas non plus au même moment et ne respectent pas la jauge, il faut étaler dans la journée. Donc, on essaye d'avoir des circuits d'approvisionnement plutôt le matin pour étaler dans la journée.
Et est-ce qu'ils viennent plus, par exemple, entre midi et deux? Et est-ce que vous avez des heures de pointe qui ont évolué? Et si oui, comment?
Oui, ils viennent plus entre midi et deux. Et là où il faut faire attention, c'est entre 16h et 18h, entre la sortie des écoles, la sortie des bureaux et le retour chez soi, hein, puisque autant les salariés reçoivent des dérogations pour professionnels pour rentrer chez eux, autant les mères de famille ou les pères de famille, s'ils ne travaillent pas et qu'ils vont chercher leurs enfants, il faut que ça colle avec les horaires des magasins. Donc c'est vraiment plus compliqué pour la vie des clients, mais c'est bon. En même temps, c'est jouable. Et puis je crois que tout le monde a conscience aujourd'hui que c'est reparti pour un tour et donc on arrête de discuter des diagnostics médicaux.
Oui,
là,
oui.
Tout le monde a un peu peur quand même. Hein.
Oui, on est ensemble et dans le même sens.
Voilà.
Enfin.
Voilà.
Et ça se traduit en tout cas chez vous. Alors, ça c'est pour le fonctionnement, les horaires, je dirais, la vie du magasin et de ses clients. Est-ce que nos courses évoluent? Bercy a publié des informations très étonnantes, notamment qui auraient entraîné un record de consommation de légumes surgelés, de conserves. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez?
Oui, mais c'est vraiment une parenthèse. C'est une rupture. Faut pas. C'est une anecdote. C'est marrant à raconter parce qu'on a été la caricature de nous-mêmes après avoir été les propagandistes d'un nouveau modèle alimentaire français, plus sain, moins de sel, moins de sucre.
Vous
et
avez
tout.
Vu arriver la prochaine question. Oui,
on est arrivé. On a été des goinfres pendant le. Et je dis on. J'en fais partie. J'ai pris 8 kilos moi aussi à manger des pâtes, du riz, des boîtes de conserve. J'adore les sardines et les maquereaux. J'ai redécouvert tout ça. Mais en fait, bon, maintenant passé le premier confinement, le cycle vertueux a repris. Il se revend plus de bio, il se revend plus de vrac. Le vrac avait été très très contesté pendant la première période Covid. On nous avait même les antiplastiques étaient redevenus des militants du plastique pour recouvrir le vrac.
Oui. Hein, et même avec les mesures barrières, le vrac repart.
Et maintenant, ça repart. Ça repart parce qu'au fond, on s'installe dans ce principe d'incertitude. Donc, on s'organise. Les gens viennent avec leur sac. D'abord, on n'a pas envie d'avoir le sac des autres. Hein, donc, tout ça s'organise. Je pense que, sans être complètement vertueux, le modèle de consommation français reprend son cheminement vers une meilleure qualité sanitaire, vers plus de local, vers plus de traçabilité aussi. Hein, la demande sociale est très forte.
Vous venez de me définir ce qu'on pourrait appeler le panier moyen ?
Alors, le panier moyen, non, je ne sais pas le définir là.
Oui.
Mais si vous voulez, cet été, on a mangé beaucoup de glace, alors que tout le monde était anti-sucre et tout ça.
Oui.
On a mangé beaucoup de pâtes pendant le premier confinement, du riz et des conserves.
On a passé notre temps à compenser, en fait, les difficultés de l'épidémie.
Mais si je regarde de l'amont, par exemple, la production agricole française a à peu près écoulé tous ses stocks, alors, y compris ce foie gras à Noël. Hein, donc, on n'a pas eu trop de problèmes de ce côté-là.
Alors, c'était ma question. C'est, est-ce que les Français se sont fait plaisir alors que les restaurants, par exemple, étaient fermés pendant la période
des fêtes ? Oui, les Français se sont fait plaisir. Ils ont acheté des produits festifs dans les hypermarchés. Après, on voit bien aujourd'hui que... peut-être que je devance votre question, mais les magasins de proximité dans la période où on est confiné ont très très bien marché, petits ou grands commerces, hein, parce qu'on a oublié que les petits commerçants étaient aussi ouverts. Ce n'est pas une opposition de taille de magasin. Dans l'alimentaire, tout le monde était ouvert.
Oui.
Après, les grands hyper, type Carrefour, Auchan, certains grands Leclerc qui étaient dans les centres commerciaux, ont pâti de l'éloignement des zones autorisées de circulation. Ce qui a extraordinairement marché et qui ça m'a impressionné moi-même, c'est le développement de formules à partir du digital, que ce soit le drive, que ce soit le relais piéton, ou la vente à domicile, ou le click and collect. Alors ça révolutionne complètement les modes de consommation. On a gagné en 4 ans en développement du digital. Nous, on a fait le chiffre d'affaires en 2020 qu'on comptait faire en 2024 sur le drive.
Grâce au drive.
Oui, le drive. Le drive, on a eu... en pleine période de premier confinement, Leclerc a eu 1 million de consommateurs supplémentaires par le drive. Vous vous rendez compte ? Ils ne sont pas tous restés après, etc. Mais ça veut dire que ces formules pour lesquelles les Français semblaient intéressés mais réticents, aujourd'hui, elles sont complètement parties. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de l'anti-Amazon non plus à tout l'arigot. Des entreprises françaises vont pouvoir relever ce défi.
Les choses bougent, on s'adapte, vous devez vous adapter. Une question importante, Michel-Édouard Leclerc, ce matin, sur le rachat possible du groupe Carrefour par le géant canadien Couche-Tard. De quel œil voyez-vous ce mariage, s'il a lieu ?
Alors, pour moi,
qu'est-ce qu'il traduit pour vous ?
Je ne connaissais pas non plus. Mais ouais. Et donc je ne vais pas non plus commenter le détail parce que je pense qu'il y a une responsabilité juridique. Je pourrais faire varier le cours de bourse d'une
pas
certaine
faux.
Manière. Mais simplement, mais c'est deux choses.
Est-ce que comme Bruno Le Maire, vous diriez qu'il est important que la France reste propriétaire de ses grandes marques de distribution?
Ben, ça m'intéresse qu'il dise ça, indépendamment de son impact sur Carrefour, parce que ça veut dire que tout ce qu'on a dit sur l'importance du commerce pendant la crise, sur l'approvisionnement des Français, le côté stratégique de la distribution, non seulement il est reconnu en période de crise, mais maintenant, on en tire les leçons et je trouve que c'est bien que Bruno Le Maire re-rappelle que le commerce est un vecteur essentiel de la production française et on a la chance d'avoir des belles entreprises de distribution et c'est bien de se poser la question de savoir si ça reste français ou pas. Ça, c'est une première chose.
Vous parleriez de souveraineté alimentaire ?
Je parlerai de souveraineté alimentaire, mais aussi de vecteurs pour vendre les productions françaises.
Donc vous souhaitez que Carrefour reste français ?
Oh, mais moi, je pense que Carrefour est une belle entreprise et qu'elle a de l'avenir. Après, je ne sais pas si ses actionnaires veulent le développer ou le démanteler, ça, c'est, ou sortir de leurs actions. Il y a une deuxième chose qui est importante, oui. Je pense, c'est qu'on a applaudi des caissières. Donc, il y a des salariés derrière, il y a de l'emploi. Et Bruno Le Maire est fondé à poser la question de savoir ce que tout ça devient, même oui. avec un changement d'actionnaire.
Comment protège-t-on nos emplois ?
Exactement, parce que l'État a quand même fait des gros efforts avec le chômage partiel, l'indemnisation, etc. Ce serait quand même un comble que tout ça tombe aux oubliettes.
Un tout dernier mot, un oui, un non. Est-ce que vous pensez recruter cette année ?
Oui, 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 encore.
En dépit des difficultés.
Oui, oui, peut-être 1500 à 2000 emplois nets.
Des jeunes?
A priori, il y a plus de jeunes qu'on recrute. C'est facile de vous répondre ça.
Oui, oui.
Mais non, le développement sur le digital, les points, on a une centaine de projets de points relais piétons dans les villes.
Dans les villes.
Au prix des hyper, donc c'est une logistique et tout ça. Oui, oui, on a de la croissance sous le pied.
Merci beaucoup, Michel-Édouard Leclerc, de nous avoir donné cette photographie plutôt optimiste ce matin sur RTL.
Volontariste, en tout cas.
Bonne journée à vous et à très bientôt sur l'antenne d'RTL. Dans un instant, Louis Baudin pour la météo à 7 jours.
Bonjour, c'est Bernard Lévy.
Laissez-vous tenter.
C'est une star, l'auteur de théâtre française la plus jouée au monde et une brillante romancière. Yasmina Reza publie Serge, le livre le plus drôle, le plus féroce mais aussi bouleversant de ce début d'année. Finaliste du Grand Prix RTL Lire, absente des plateaux télé, rare à la radio, Yasmina Reza sera l'invitée exceptionnelle de Laissez-vous tenter. Rendez-vous à 9h.
RTL Matin. Louis Baudin, il est 8h34.
Et je surveille la neige qui arrive donc voilà. Dans le nord-est, hein, ça y est. Bon, il n'y a pas d'erreur de prévision, cette neige qui s'installe sur la Lorraine, sur l'Alsace, sur les Ardennes, puis un petit peu plus tard sur la région lilloise également, c'est prévu. Donc de la neige tout au long de la journée, 10, 15, voire 20 cm d'ici ce soir et même demain matin, puisque ça ne va pas cesser de la journée. Dans les autres régions, on l'a dit, ça sera nuages, pluie en pleine, neige en montagne sur les Alpes du Nord ou encore du côté du Massif Central, et un peu de soleil sur la Bretagne ou encore près de la Méditerranée. Demain, on retrouvera cet épisode de neige qui va glisser un petit peu vers le sud. Donc peut-être de la neige jusqu'en plaine du côté de la Bourgogne, peut-être autour du Massif Central, en région Rhône-Alpes, en atténuation au fil des heures. Donc dans le nord-est, on retrouvera un temps un peu plus sec. Dans les autres régions également, dans l'ouest et le sud, on aura également un temps un peu plus sec et peut-être quelques éclaircies toujours plus belles près de la Méditerranée. Et puis samedi, alors, est-ce qu'il y aura cet épisode de neige ou pas ? Peut-être un peu de neige jusqu'en pleine l'après-midi sur l'Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, toutes les régions du Nord-Est, le centre également. Peut-être à 5 cm attendu d'ici la nuit de samedi à dimanche. Dimanche, on aura quelques flocons dans l'Est, mais retour d'un temps plus sec dans les autres régions, ce qui sera encore le cas pour la journée de lundi. Tout ça avec des températures parfois un peu en dessous des normales de saison qui remonteront en début de semaine prochaine où on retrouvera une circulation plus classique avec des perturbations qui arriveront de l'Atlantique avec des nuages, de la pluie en pleine et de la neige en montagne.
Question égoïste, quelques flocons en Île-de-France, ça reste possible ?
Oui, c'est possible dans l'après-midi de samedi ou la nuit de samedi à dimanche prochain.
Très bien, nous allons observer tout cela. Merci Louis Baudin. RTL, il est 8h36.
RTL, vous êtes comme ça.
Un coup de chapeau ce matin à ces commerçants qui, toute l'année, parcourent les petites routes de campagne au volant de leur camionnette pour livrer le pain, la viande ou le fromage. Et actuellement, dans les régions touchées par les chutes de neige, leur présence est essentielle pour des habitants souvent âgés et isolés. Bonjour Guillaume Frixon.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Alors vous vous êtes rendu dans un petit village du Puy-de-Dôme, dans les monts du Forez, et vous avez suivi Ludovic Tabur, qui tient le bar du village, mais qui fait aussi la tournée de pain pour les habitants de sa commune.
Oui, il est 8h30 précise et Ludovic charge l'arrière de sa camionnette. Du pain, des viennoiseries, de l'épicerie et moins 4 degrés au thermomètre pour une tournée essentiellement sur les routes enneigées.
C'est rarement au-dessus de 50 km/h, c'est des petites routes enneigées de montagne, hein, donc on fait attention. Hein. De toute façon, c'est clair qu'on n'est pas pressé, on va prendre son temps. La conduite n'est pas forcément facile, c'est, on va dire une conduite sportive sur neige, mais on s'habitue. Hein.
Alors chaque jour, une tournée ou plus exactement, un circuit différent d'une vingtaine de personnes et de kilomètres. Le premier arrêt a lieu chez des agriculteurs et Ludovic dépose le pain directement dans la boîte aux lettres.
Les gens sont habitués à ce que je passe une à deux fois par semaine dans leur boîte et puis après on règle le prix une fois par mois. C'est voilà, une facturation une fois par mois.
Quelques minutes de route plus tard, la camionnette se stationne dans la cour de Nicole.
Je signale en fait ma présence, puis c'est un peu la tradition de s'annoncer.
Quelques achats, quelques mots, quelques sourires.
Alors, en pâtisserie, regardez, en sucré, j'ai tarte aux poires, tarte aux abricots, j'ai un parfait au chocolat et une petite tarte citron.
J'ai la tarte aux poires et le chocolat. Allez.
La venue du commerçant ambulant ravit cette retraitée de 80 ans.
Ça, c'est léger.
Oui, ça fait du bien, oui. Très du bien même. Parce que je ne peux pas sortir comme je veux, alors heureusement qu'il est là. Ah oui.
Et on devine qu'avec l'enneigement que l'on connaît en Auvergne ces dernières semaines, la tournée de ce commerçant ne doit pas être de tout repos.
Eh bien, au gré des rencontres et des petits mots échangés, la tournée se poursuit bon gré mal gré.
3,70, c'est bien ça ?
3,70, comme d'habitude, votre,
oui, voilà,
votre baguette.
Merci.
Et puis votre cigare au chocolat.
On est content de le voir arriver.
Ah ben oui, je suis contente. Ça me fait ma gourmandise, ça me fait mon pain. Bon, j'en ai au congélateur, mais enfin...
Et oui.
Mais sur les hauteurs de la commune, la neige est bien plus présente et Ludovic doit s'adapter.
Alors là, on a une route qui n'est pas déneigée par la commune. Et là, à mon avis, je ne vais pas prendre le risque, je vais plutôt faire une demi-tour. Je vais voir ça, mais...
Le demi-tour est obligatoire et les quelques kilomètres supplémentaires à effectuer n'enlèvent rien à sa bonne humeur.
C'est plus que des clients, c'est presque des amis, voilà. D'ailleurs, il suffit que je sois 5 minutes en retard, ils s'inquiètent.
Et dans un hameau isolé, ses deux prochains clients l'attendent déjà directement en bavardant au bord de la route.
Des nouvelles fraîches, ben la neige, hein. Ouais. Mais vous en avez un petit peu moins là qu'à d'autres endroits.
Je sais pas si ça arrive à monter là.
Ah, alors la côte de Polanier,
oh, oui, chasse-neige n'est pas passé.
Et ici, personne ne cache son plaisir de se retrouver.
Voilà.
Merci bien, monsieur.
Merci. Ah oui, ça fait du monde à voir, parce que, vous voyez, on n'est pas nombreux dans le village, on est une quinzaine. Ça fait du bien, ça fait de la visite.
Denis habite, lui, à 4 km du bourg, et si l'épicier ambulant ne venait pas jusqu'à lui, il n'aurait pas d'autre choix.
Bah, j'irai à pied. Oui, j'y ai assez été. Maintenant, j'ai du mal. L'année passée, je me suis tombé, alors je suis démoli l'épaule.
Donc on va garder Ludovic plutôt.
Ouais, ouais.
Alors qu'importe la météo, au volant de son camion, Ludovic ne compte jamais son temps pour rendre service et visite aux habitants les plus isolés de son village.
On l'aime beaucoup sur RTL, rendre hommage à ces anonymes qui aident les autres et qui facilitent la vie. Encore un bel exemple ce matin avec ce commerçant itinérant dans le Puy-de-Dôme. Un reportage signé Guillaume Frixon à retrouver sur le site rtl.fr.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h40, dans le sillage de ce qu'on appelle désormais l'affaire Olivier Duhamel. Gros plan ce matin sur les sœurs Pizier, Evelyne et Marie-France, un duo inséparable qui a fini par se déchirer, Isabelle Choquet.
Oui, deux sœurs, deux destins qui ont épousé les courbes artistiques et politiques de l'époque et deux fins tragiques aussi. C'est un grand portrait dans le Point cette semaine. Pour comprendre cette famille, il faut sans doute revenir en 1953, lorsque le paquebot Le Résurgent dépose à Marseille une jolie mère de famille flanquée de ses trois enfants. Elle s'appelle Paula Cocanas et elle vient de divorcer de Georges Pizier, qui est resté, lui, en Nouvelle-Calédonie. Paula a un amant à Paris, mais elle s'installe à Nice et elle sait où elle va. Ses filles, elle les veut instruites, pas comme elle, qui n'a pas fait d'études, mais elle les veut aussi affranchies comme leur mère. D'ailleurs, elle leur a déjà livré en détail tous les secrets de la sexualité. Les deux sœurs sont extrêmement proches, entente scellée dans l'enfance par l'adversité. Leur mère est une femme libérée, une séductrice. À l'école catholique, les deux gamines sont montrées du doigt. Les religieuses leur promettent les flammes de l'enfer. Evelyne rassure alors sa cadette, on n'a qu'à dire que Dieu n'existe pas. Quand je les ai retrouvées quelques années plus tard à Paris, raconte une amie, elles se téléphonaient ou se voyaient tous les jours. D'ailleurs, lorsque Marie-France a gagné ses premiers cachets d'actrice, l'une de ses premières dépenses a été d'acheter une voiture à Evelyne. Marie-France, repérée à 16 ans par Truffaut, est une égérie de la nouvelle vague. Evelyne sera la première femme agrégée de droit en France. C'est la fin des années 60 et elles sont de tous les combats de la gauche. Elles deviennent ainsi le centre de gravité d'une petite cour d'amis, d'amants ou d'admirateurs, de François Truffaut à Georges Kegeman, de Robert Hossein à Jean-Paul Sartre et Simone Signoret, en passant par Bernard-Henri Lévy. Les amants en valse, certains passent d'une Pizier à l'autre. Ce duo de filles est aussi uni dans la haine du père, un vichiste, un collaborateur. Et comme un formidable pied de nez, chacune a eu une aventure avec une figure mythique de la gauche. Pour Marie-France, c'est Daniel Cohn-Bendit. Pour Evelyne, ce sera Fidel Castro. Elle sera sa maîtresse pendant 4 ans avant de rencontrer Bernard Kouchner. Tenter de les raconter, racontera le French Doctor, c'est dire la sensualité charnelle des filles du soleil, leur intelligence, leur beauté, leur provocation permanente. On se sentait heureux quand elles étaient heureuses, malheureux dans le cas inverse. Et puis un jour, on finissait par prendre ses jambes à son cou en se disant « Cours, camarade, ne te retourne pas !» Avant d'épouser Evelyne, Kouchner était d'ailleurs dans les bras de Marie-France. Quand Evelyne divorce, elle refait donc sa vie avec Olivier Duhamel et c'est elle qui présente à sa sœur un cousin germain d'Olivier qui devient son compagnon. À partir de là, la fusion est totale. En 88, coup de tonnerre, leur mère se suicide sans raison apparente à 66 ans. Dans le clan Pizier, c'est la sidération, mais les deux filles réagissent commence alors très différemment. Marie-France parle, elle s'extériorise, elle met sa propre vie en scène dans des romans ou dans des films. Evelyne, elle, sombre dans l'alcoolisme. Et c'est là que le centre de gravité de la tribu se déplace. Olivier Duhamel en devient le pilier, pour le meilleur et pour le pire. Et quand le pire est révélé, les inséparables se séparent. Evelyne protège son mari, Marie-France sonne l'alarme. À tous ceux qui lui demandaient pourquoi elle ne voyait plus sa sœur, elle disait la vérité, raconte l'aîné des Kouchner. Voilà pourquoi tant de gens ont su. Une amie conclut, c'est simple, jusqu'à sa mort, elle n'a plus parlé que de ça. Splendeur et misère des sieurs Pisier, c'est à lire dans Le Point cette semaine.
Merci beaucoup Isabelle Choquet, il est 8h44. Dans un instant, nous retrouvons Laurent Gérard.
À 9h30, RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Jeudi matin. Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Oui, voilà. Bonjour Mademoiselle Jeanne.
Bonjour Monsieur.
Quelle jolie voix.
Monsieur Calvi. 2021, c'est l'année Mitterrand. On célèbre les 25 ans de la mort de l'ancien président de la République, mais aussi les 40 ans de son accession au pouvoir. Mmh. Emmanuel Macron s'est d'ailleurs rendu sur la tombe de son prédécesseur à Jarnac, la bonne ville où je suis né, Monsieur Calvi.
Oh, oui, ah oui.
Rejoignons justement le palais de l'Élysée.
Je crois aux forces de l'esprit. Je ne vous oublierai pas. Emmanuel, qu'est-ce que tu fabriques encore? Tu te prends pour Mitterrand? Mais non, Brigitte, répète mon prochain discours où je dirai que je n'oublie pas les Français en matière de vaccins. Ah oui, je crois que les forces de l'esprit, ça ne suffira pas. Faudra augmenter la cadence. Hein. Et c'est reparti. Laboratoire de l'Élysée, j'écoute. Allô, Brigitte? Céline Renaud, on vient de m'injecter le vaccin.
Oula.
C'est formidable. Depuis, je plane et je vois des éléphants roses. Oh là là, vous êtes sûr que votre vaccin était bien conservé, Céline? Pas d'inquiétude, je l'avais mis au freezer entre les bâtonnettes Colin Iglo et les cônes au chocolat Mico. C'est bon, les cônes Mico. Très bien, Lynn, mais pardonnez-moi, j'ai affaire. Tout le monde nous réclame des vaccins, on n'arrive plus à suivre. Je dois raccrocher, je vais demander à mon gogelet de nous aider. Ok, gogelet, appelle le labo Moderna.
Ok, Brigitte, j'appelle l'au-delà.
Ici François Mitterrand, j'écoute. Mais dépêchez-vous, mon beau-frère Roger Hanin a commencé une histoire drôle. Et, j'aimerais bien connaître la fin. Hein. Ah, ça alors, ce gogelet m'étonnera toujours. Puisque je vous tiens, François, auriez-vous quelques conseils à donner aux petits? Emmanuel doit se montrer proche des Français. Il lui faut une maladie. Mais c'est déjà fait, il a eu le Covid. La prostate. Voilà les secrets. La prostate. Mais il est beaucoup trop jeune. Alors, il n'a qu'à leur raconter n'importe quoi. Parole, parole, parole. Faut que je vous laisse. Parole, parole, parole. Démerdez-vous. Parole, parole, parole. Imbécile. Parole et encore des paroles. Que tu sais mon vent.
Il est temps de retrouver Pascal Pro en direct de CNews, où il s'apprête à présenter son émission, l'heure des pros.
Bonjour.
Bonjour Pascal, quel bonheur. Quels sont vos invités du jour?
Eh bien, une fois encore, la pluralité journalistique sera de mise, puisque je reçois Geoffroy Lejeune de Valeurs Actuelles, Geoffroy Levieux de Valeurs Modernes, et Geoffroy Auburne de Valeurs Contemporaines.
Eh bien, ça promet. Mais si je vous rappelle, c'est pour connaître les questions que vous poserez ce midi dans Les Auditeurs ont la parole sur RTL.
Mais oui, bien sûr, nous parlerons de la conférence de presse de Jean Castex et Olivier Véran prévue ce soir. Que vont-ils dire? Que les restaurants et les théâtres restent fermés? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de nous emmerder pendant une heure avec des graphiques foireux pour nous dire ce qu'on sait déjà? Je pose la question au 3210. Oui.
Bon, Pascal, c'est pas le seul enjeu de cette conférence de presse. On s'attend à un éventuel durcissement des mesures.
En effet, vous avez raison. Jean Castex veut resserrer la vis. Olivier Véran veut resserrer l'écrou. Et Jérôme Salomon veut resserrer l'étau. Faut-il délocaliser le gouvernement chez Bricorama? Eh bien, réagissez au 3210.
Vous êtes sarcastique, hein. En attendant, oui, mais... il faut bien faire quelque chose contre le variant anglais.
C'est vrai, mais l'intensification de la vaccination promise par le ministre de la Santé n'étant finalement pas au rendez-vous, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour la France? Le variant ou le Véran? Je pose la question au 3210.
Jean-Claude Camus, l'ancien producteur de Johnny Hallyday, s'est exprimé au sujet de Jean-Baptiste Guégan, sosie vocale de Johnny, je vous le rappelle.
Ah oui.
Selon Jean-Claude Camus, Jean-Baptiste Guégan abuserait du nom de son modèle. Bonjour et bonne année, Jean-Baptiste Guégan.
Oh, bonjour, c'est JB. Oui. Bonne année à tous et à toutes.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ce Camus que j'ai jamais lu, qui vient me chercher des pus pour critiquer mes affiches?
Comme je le disais, Jean-Claude Camus est l'ancien producteur de Johnny. Il trouve que sur votre affiche, le nom de Johnny est beaucoup trop gros par rapport au vôtre.
Mais c'est fait exprès pour pas faire de l'ombre à ce Johnny dont tout le monde me rabat les oreilles.
Oui.
Mais rassurez-vous, sur scène, c'est bien moi qui chante.
D'accord.
Oui. Mais oui, c'est bien moi, avec tous mes musiciens de ma bande à JB.
Oui.
Gros Délice, Raoul Popo, Alain Lentille. Qu'on salue.
Qu'on salue.
Parfois, il y a aussi Jean-Mathieu Guéchédid.
Ah oui.
Celui qu'on appelle GM.
Mais bien sûr.
Qui joue de la guitare à pile. On fait des veaux tous ensemble.
Non, vous voulez dire qu'ils font un bœuf avec vous, non?
Ah bon? Vous trouvez? Pourtant, on nous dit souvent qu'on chante comme des veaux. Un peu comme mon ami Vincent Miclot.
Mm.
Celui qui chante toujours avec les yeux Miclot.
Oui. Je crois que je vois très bien de qui vous voulez parler. De toute façon, votre tournée est interrompue, là, je suppose.
C'est vrai. Et comme ma femme, Tia 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 Guéboudou,
Tia 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 Guéboudou,
n'est pas avec moi dans notre villa de Mande-la-Croquette, j'en profite pour travailler.
Ah bon, votre épouse Tia 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 n'est pas avec vous?
Non, Tia 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 est en stage à Los Angeles avec son prof de gym, Lalil Jesper.
Ah oui,
il a pris du muscle.
Il est sympa ce Lalil Jesper.
Oui.
Et ma Tia 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 a l'air de bien s'entendre avec lui, Lalil Jesper.
Elle a l'air.
Oui. Et les deux gamines, Jay et Jode, sont chez leur grand-mère, Mamie Guéroc.
Mais c'est bien organisé tout ça.
Mais oui.
Vous ne vous ennuyez pas trop alors?
Mais pas du tout. Ah. Je suis avec des amis sosie vocaux à moi.
Oui.
Jean-Jacques Guédutron et Jean-Eddy Guémichel.
Ah, génial.
On va faire un trio à trois des sosie vocaux.
Mm-hmm.
Les vieilles copies. D'ailleurs, tiens, je vous passe Jean-Eddy Guémichel.
Ah.
Allô, Michel?
Yes.
C'est Jean-Eddy Guémichel, pareil. Ah oui, joli, monsieur Guémichel.
Mais c'est étonnant, vous avez la voix de monsieur Eddy.
Ah bon?
Oui.
Vous savez.
Oui.
Alors, à place aux vieilles copies, je dis musique maestro.
Très content quand tu seras une vieille copie.
Très content que tu seras ma vieille copie.
Après tu seras décédé, je saurais bien te copier. Très content d'être ton sosie, vieille copie. Ouais, vieille copie.
Vieille copie.
Vieille copie. Vieille copie.
Ah bon, vous trouvez?
Ah oui, nous trouvons.
Ah, j'ai une copie. Oh, voilà.
Écoutez, merci infiniment à toute l'équipe.
Ça fait du bien.
Oui, ça fait beaucoup de bien. On se retrouve sur le site rtl.fr et demain sur RTL. Ah, bonne journée à tous. Mille
à
merci
demain.
À l'équipe.
Ah, merci.
Il est 8h54. Vous aimez le clafoutis au poire?
On l'adore.
Ah, très bien. Ben voilà, vous venez d'entendre Cyril Lignac qui va vous en donner la recette dans un instant. Il a tout de suite sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
8h57, avant de retrouver Yasmina Reza dans quelques instants, nous allons répondre aux questions de nos auditeurs, celles qui vous sont posées. Cyril Lignac, bonjour.
Bonjour.
Ce matin, c'est Bastien qui vit à Possé-sur-Cis, en Indre-et-Loire, qui vous demande une recette de dessert vegan. On imagine qu'il va y avoir des fruits dans cette recette, Cyril.
Alors, il va y avoir des fruits, mais aucun produit animal, puisque le véganisme, c'est vraiment pas de produit animal. Donc pas d'œuf, pas de lait, pas de crème. Pas de viande, pas de poisson, mais là, il n'y en a pas dans la recette.
Je commence à déprimer. Bon, allez, lancez-moi.
Mais finalement, je me suis intéressé, parce qu'il faut s'intéresser à tout.
Oui.
Et je trouve que c'est une manière différente de faire de la pâtisserie. Donc, je suis allé chercher du tofu,
oui.
Qui a des propriétés crémeuses et onctueuses, oui. Comme de la crème.
Le fameux tofu soyeux.
Exactement. Oui. Donc, j'ai pris 160 grammes de tofu, la pulpe de la gousse de vanille que j'ai grattée, une cuillère à café d'extrait d'amande, mmh. pour avoir ce côté un peu parfumé, et du lait d'amande, mmh. une cuillère à soupe de lait d'amande. J'ai mixé tout ça, qui m'a donné cette crème onctueuse. Mmh. Par-dessus, j'y ai ajouté 65 grammes de farine et une cuillère à soupe de fécule de maïs, qui va me permettre d'épaissir à la cuisson tout en gardant de la légèreté. J'ai ajouté 50 grammes de sucre et j'ai remis 3 cuillères à soupe de lait d'amande. Alors moi, j'adore ça, le lait d'amande, j'en prends au petit déjeuner. Ça change du lait de vache et c'est vachement bon.
C'est très bon avec le café.
Exactement. Et ça change un peu, ça varie un peu les plaisirs. Ensuite, j'ai déposé 240 grammes de poire, un morceau que j'ai épluché. C'est la pleine saison des poires Williams, Comice. Il y a plein de variétés de poires en France. Délicieuses. Il faut qu'elles soient quand même assez mûres pour qu'elles soient bien moelleuses. Dans un moule que j'ai beurré.
Comment ça beurré?
De margarine.
Ah,
pour
voilà,
pas que ça colle, parce qu'il faut quand même que je le décolle. Mm-hmm. J'ai versé toute cette préparation dans mon moule, donc les poires au fond, par-dessus ma préparation bien moelleuse, mm-hmm. et bien mixée. Et j'ai cuit à 190 degrés pendant 40 minutes. Ça me demande un peu plus de cuisson. Mais à la sortie, on a quelque chose d'hyper moelleux.
Est-ce que c'est bon? C'est ça,
très
ma question.
Bon. Et paradoxalement...
Ça vous a surpris?
Ça m'a surpris. Oui. Et le tofu, alors j'en utilise dans la cuisine japonaise ou dans ce que je fais, mais je l'ai trouvé hyper moelleuse, hyper délicate, très bonne. Et finalement, on peut faire aussi de temps en temps des gâteaux sans œufs et ça marche très bien grâce au tofu.
Et bien voilà, c'était le clafoutis aux poires vegan de Cyril Lignac à la demande de Bastien d'Indre-et-Loire. RTL, il est là.